3, 2, 1. Sympa cette musique, on va se la garder pour une petite musique de pause de tout à l'heure. Comment ça va vous? Comme un lundi, me disait mon petit Malo, 7-11 ce matin. Oh là papa, j'aime pas le lundi. J'aime pas lundi, c'est une journée où il n'y a rien d'autre que l'école. Bah oui, il n'y a pas la promesse d'activité ou je sais pas, ou d'anniversaire ou de sortie ou de promenade. C'est lundi quoi, c'est lundi. En fait, le syndrome du lundi commence très tôt. Hein. Malo, il est en CP, il me dit j'aime pas le lundi quoi. Donc c'est, voilà, c'est un truc universel en fait. Merci pour, merci Sissi pour le gentil message. Hello tout le monde, hello Samuel, tu as adouci un petit peu notre lundi, vous voyez, le fameux lundi dont nous parlions à l'instant. Dites-moi si mon micro est trop fort, hein. Je suis en train, parfois je dérègle des trucs, dites-moi si c'est trop fort. Jusqu'à 78, merci pour le Prime. Trade in Life pour le Prime, Mad Hatter pour le Prime, Neil Kid Pride pour le l'abonnement, merci Aurélien pour les bits. Lundi en télétravail, ça passe mieux, on peut regarder. Samuel Etienne, me dit Laurent. C'est adorable. Depuis que j'ai lu Garfield, j'aime pas les lundis, mais j'adore les lasagnes, Captain McBurney. J'ai pas la ref. Ouais, je pensais que je me dis bien que c'est un petit peu fort, je baisse un petit peu. Je m'en doutais. J'ai pas la ref, mais elle a l'air sympa. Est-ce que j'ai aimé Valorant? Mais c'est le problème, justement. J'ai baissé mon micro, mais n'hésitez pas si vous voulez que je le rebaisse. Ouais, j'ai aimé. On va revenir sur ce stream avec Juliette hier soir. Qu'est-ce qu'on a ri? Enfin, qu'est-ce qu'elle a ri de moi déjà? Tu m'as l'air fatigué, Sam. Hop, j'ai chopé un petit virus dimanche, rien de méchant. Petit virus qu'on s'est repassé en famille, qui m'a un peu séché. Heureusement que le stream d'hier soir avec Juliette m'a bien donné la pêche. Mais ouais, voilà. Mais je suis bien, mais voilà. Non, j'ai pas la rêve de Garfield. Yonali, merci pour le 13e mois d'abonnement. Yonali qui nous remercie pour la soirée d'hier, c'était top. Écoute, nous on a passé un bon moment en tout cas. Hard Rock Gamer était là aussi et a bien aimé. C'est l'effet d'Odin, on se sent presque un dieu sous Valo. Ah oui, Odin, c'est l'espèce d'énorme mitrailleuse là, que j'avais là, qui me permettait d'arroser un petit peu tout le monde, surtout les murs. Oui, alors je sais que Garfield, non, il y a Trip 45 qui pense vraiment que je suis très loin de tout, qui me dit Garfield, c'est un dessin animé. Je crois même que c'est une bande dessinée, si je puis me permettre, avant d'être un dessin animé, non? D'ailleurs Sarah corrige à l'instant. C'est juste que j'ai pas la rêve des lasagnes parce que je ne suis pas un spécialiste de Garfield. Mais qui ne sait pas que Garfield est une BD, hein? Sinon vous regardez Question pour un champion, vous le saurez surtout, sûrement il y aura une question qui va arriver forcément quoi. Allez, je vous lis parce que ça me met et ça nous met de bonne humeur. Alors suspense intolérable. Lost in a Maze, les habitués sont là. Merci pour le 24e mois d'abonnement, ça fait 2 années consécutive, mois après mois, de follow chaque mois de la chaîne Lost in the Maze. Merci beaucoup, c'est adorable. Je crois que Valorant va rentrer dans ce club très très fermé des jeux que j'ai découvert ces derniers mois et que je vais jouer en solo pour vous faire rire. Voilà. Donc, dans mon actuel tiercé, il y avait jeux que je stream régulièrement pour vous faire rire. The Witcher 3. Il y a Fall Guys, bien sûr, le dernier découvert avec Moment, j'ai beaucoup aimé. Il y a Rocket League, bien sûr, extrêmement technique, extrêmement dur, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc je les stream régulièrement, tout le monde rigole, et j'avoue que j'ai eu un petit crush pour Valorant hier soir. Voilà. Il faut que tu joues pour toi surtout. Je joue pour moi, mais comme je joue mal, c'est drôle de le partager ensemble. Quoi. D'autant que parfois on joue ensemble, Fall Guys par exemple, on fait des parties ensemble, ouvertes à la commu, et puis de toute façon, quoi que je joue, c'est un moment de partage puisqu'on en parle ensemble. Prochain jeu que tu vas tester, dimanche prochain 20h, rendez-vous avec Hitman. Hitman. Voilà. Tangerine Nightmare, oui, je sais que le Musée National de la Marine a rouvert je crois, en bon français. Et pourquoi pas un stream un jour, c'est une bonne idée. J'ai pas de projet de stream en musée actuellement, j'en ai beaucoup fait les 2 dernières années, mais pourquoi pas. Il y a tellement de projets à venir sur cette chaîne, en vrai, je me demande si j'ai pas un petit peu exagéré, et je me demande s'il n'y a même pas un petit peu trop de projets à arriver sur cette chaîne Twitch dans les prochaines semaines et les prochains mois, et waouh, presque, j'aime bien quand il y a beaucoup, mais là, peut-être j'ai les yeux plus grands que le ventre. Ce sera pour fêter les 3 ans de cette chaîne dans quelques jours et les 600 000 followers puisqu'on est à ce matin 598 500 followers. Yann009, merci pour le 26e mois, c'est beaucoup, merci beaucoup. Corla, merci pour le 2e mois d'abonnement. La rediff d'hier soir, Jopola, elle est disponible à partir de 13h sur YouTube, gratuitement, sur ma chaîne YouTube Samuel Etienne. Toutes les rediffs de tout ce que je fais, et puis pour les abonnés sur Twitch depuis hier soir, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, parfois même, les rediffs sont mises avant au plus tard 13h aujourd'hui, quoi. MMG cite Oscar Wilde, un bel auteur, une belle citation. Il faut toujours viser la lune, même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ah, je peux vous confirmer qu'on vise la lune là en ce moment sur cette chaîne. C'est énorme. Ouais, j'ai beaucoup aimé Valorant. Ouais, vrai coup de cœur, vrai coup de cœur. Je pensais pas, hein, tirer sur des gens comme ça à froid. Tu m'aurais dit. De même que j'aurais pas mis une pièce sur Rocket League, et en fait non, en fait j'ai beaucoup aimé, quoi, très addictif. Merci aussi tout le 83 pour le petit mot sur l'hebdo de vendredi. Bon, c'était une belle émission aussi vendredi, hein. Elle vous a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de retours sympas, c'était une belle émission. Et alors est-ce que je vous donne quelques infos sur l'émission de vendredi prochain? L'émission de vendredi prochain qui arrive, donc l'hebdo Étienne de vendredi, dans laquelle on revient sur l'actualité de la semaine avec 4 invités, elle est vraiment sympa. Il y a notamment un tout nouveau qui n'est jamais venu sur Twitch ever, son premier stream. Voilà. C'est cool qu'il ait trouvé du temps parce que c'est quelqu'un de très occupé. C'est une personnalité de la télé. Mais une personne de la télé extrêmement gentille, chaleureuse, quelqu'un que je croise depuis des années dans les coulisses de la télé et qui est vraiment, vraiment une belle personne, très sympa, très rock, très drôle, toujours à dire des conneries. C'est Bruno Guillon. Bruno Guillon, l'animateur du service public que j'aime bien, avec qui j'ai récemment participé à une opération pour les Restos du Cœur. Puisque c'est lui qui a l'initiative de cette belle opération des camions pour les Restos du Cœur, Bruno Guillon vient vendredi prochain dans les Hebdo Etienne. Voilà. Donc ça va être fou. Ouais, il est vrai, et c'est vraiment une belle personne. Vraiment un mec super. Il y a un train de live qui démarre, c'est formidable. Alors c'est pas tout, il y a le retour de Poulpe. Vendredi prochain, il y a le retour de Poulpe. Poulpe qui m'a manqué, mais qui fait trop de choses. Trop, voilà, il est un peu comme moi, il fait trop de choses. Et Poulpi qui est par Mont et par Vaux, en tournage, en plateau, il travaille sur Top Gear, il a son spectacle, on l'a vu chez Popcorn, voilà, le retour de Poulpe, ouais, qui vient dès qu'il peut. Il est vraiment super gentil parce qu'il est très occupé, et Poulpi il vient quand il peut, donc il est de retour vendredi. Il y a un nom que je peux pas encore vous annoncer, Poulpe la valeur sûre, exactement. Et puis qui j'ai encore? Vous savez, le journaliste de Brut qu'on aime beaucoup, ça vous parle si je vous dis journaliste de Brut, hein, beaucoup sur le terrain, vous voyez à peu près? Ouais, vous l'avez. Rémi, retour de Rémi Buisine. Voilà. Donc ça fait déjà, voilà, trois belles affiches, je trouve, trois beaux personnages: Bruno Guillon, Poulpi, Rémi Buisine. Voilà, donc ça manque un peu de femmes quand même, vous avez raison. Donc là je suis en train de caler la dernière invitée, c'est donc une dernière invitée, bien sûr, mais je pense que l'émission de vendredi elle va être pas mal. Et puis avec l'intention maintenant d'aller sur des sujets un peu moins dramatiques, un peu moins lourds, voilà. Parce que voilà, je trouve que l'actualité est quand même très pesante. En ce moment, depuis un moment, on parle beaucoup du Proche-Orient. On va reparler du Proche-Orient ce matin, d'ailleurs. Mais je trouve que donner une tonalité un peu moins sévère, un peu moins lourde à l'actu dans l'émission du vendredi soir, comme on l'a fait vendredi dernier, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie et dans l'actu. Voilà. C'est un peu ce qu'on a fait vendredi dernier. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire vendredi prochain. Voilà. Même si, comme le rappelle Gouillac, on a parlé du Proche-Orient vendredi dernier. Voilà. Nat a bien aimé ce concept. Letod, merci pour le 3e mois d'abonnement. CocoPB76, merci pour le 12e mois d'abonnement. Ça fait un an quand même, hein, Necoms, merci pour le 15e mois d'abonnement. XGoggle, merci pour le 8e mois d'abonnement. Dr Vanel, merci pour les 2 ans d'abonnement. Je n'avais pas vu tous les subs. Paf la pastèque, j'adore. C'est l'histoire de la pastèque qui traverse la route, c'est ça? Paf la pastèque? Je sais pas. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Adrien 3150, merci pour le 20e mois d'abonnement. Mais c'est fou. J'ai pas vu cette pluie de subs. Yann 009, merci pour le 26e mois d'abonnement. Corlam, merci pour le 2e mois d'abonnement. Voilà. Donc ça, c'est les deux prochains rendez-vous, vendredi et dimanche. Alouette me demande depuis combien de temps je suis sur Twitch. La chaîne va fêter ses 3 ans dans quelques jours. Et puis c'est pas tout, il y a des beaux projets qui arrivent. Il y a un énorme événement qui arrive sur ma chaîne dans genre 3 semaines. Un truc comme jamais j'ai fait encore sur ma chaîne. Un truc choral, un truc sympa, un truc assez produit. Un truc de divertissement, j'en dis pas plus. Voilà. Ça, ce sera vraiment... un step, un truc voilà, dans l'histoire de ma chaîne. Il y a un petit truc sympa, peut-être en début de semaine prochaine, peut-être qu'on va s'aérer un petit peu, peut-être sortir avec Joe, aller peut-être, je sais pas, tout le 83 vient d'offrir 5 abonnements à la commu. Merci Toul. Merci Toul. Et donc en début de semaine prochaine, lundi, mardi, on sera peut-être, on va peut-être quitter Paris pour un double stream. Voilà. Donc, mais ça se confirme aujourd'hui. Et puis plein d'autres projets. Presque trop. Le thème du live aujourd'hui, ce matin, Cristal, c'est on lit les journaux. C'est la base de ma chaîne. Moi, je suis venu pour parler à la base d'infos, de news sur Twitch. Donc, tous les matins, dès que je peux, eh bien, on fait une revue de presse qu'on appelait la matinée Étienne. Voilà, parce que le jeu de mots, c'est la mienne, c'est la vôtre aussi. Où on lit les journaux, la presse quotidienne nationale du matin, voilà, et on prend les articles qui m'intéressent, qui vous intéressent, on en parle, on en discute, cool, et puis de temps en temps on fait un petit peu de jeux vidéo à la fin pour se détendre, voilà, peut-être qu'on, je sais pas, toi t'as un petit Fall Guys ou un petit Rocket League, je sais pas, ça fait longtemps, on verra tout à l'heure. Allez, je vous lis un petit peu, ici la règle c'est de ne pas dépasser les 30 minutes d'introduction pour qu'on aille à l'essentiel quand même, mais c'est bon de vous lire. Désolé, je bois un peu de coca parce que le petit virus, j'ai le ventre un peu retourné. J'ai rien mangé depuis hier matin. Il n'y a rien qui passe. Ouais, 3 ans déjà, c'est fou, hein. Ouais. 3 ans déjà. Oui, l'actu doit aussi donner le sourire et l'espoir en l'humanité, Toul. Oui. Oui, c'est... Oui. Dès le matin comme ça, c'est... oui, ben il y a que ça qui passe en ce moment. Hein. Ouais. Je ne pense pas que j'ai refilé mon virus à Juliette hier. J'ai fait très attention. Et puis c'est un virus, d'après ce que j'ai compris, qu'il faut vraiment du contact, quoi. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Donc avec les enfants, il y a beaucoup de contact. Comme ils étaient malades, j'ai dormi avec eux ces derniers jours, les deux. Donc voilà, quand tu cherches le virus, tu le trouves. Ouais. Donc normalement, je pense que J'espère que Juliette va pas envoyer un message en disant « Ah, je me sens pas très 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 bien ce matin. » Je vous lis. Stream de course à pied. Oui, peut-être que dans les prochains mois, il y aura du... C'est un autre projet. Peut-être qu'il y a un retour... Des streams de course à pied avec ma poussette de stream, voilà, ma fameuse poussette de stream, pas celle des musées, une autre spéciale running, quand j'emmenais les enfants courir quand ils étaient bébés, c'était une poussette spéciale très bien suspendue avec 3 grosses roues, très confortable pour les petits, j'en ai fait une poussette de stream pour courir, voilà. Et là il y a un projet, mais c'est plus que streamer en courant, c'est un truc beaucoup plus ambitieux, enfin waouh, des belles choses qui arrivent. À un moment je vais même arrêter des trucs, hein. c'est trop. Ah non, c'est pas le Covid, non, je crois pas. Remarquez, je pourrais faire un test. Remarque, ouais, peut-être. Non, je crois pas que ce soit le Covid. Non, parce que je l'ai eu vraiment début septembre, le Covid. Donc je pense que là, ouais, pourquoi pas, mi-novembre, ouais, ça me paraît tôt pour le rechoper quand même. Merci Y67 pour le 15e mois d'abonnement. Le stream en parapente, non, parce que je suis quand même pas très casse-cou, moi. Un stream de chansons paillardes, c'est pas possible, c'est pas prévu. Merci Alexandra, bonjour à toi. Ah, en fonction des souches, c'est possible? Bon, petit test alors. Merci beaucoup MMGCTF pour le gentil message à l'instant. Il y a encore un train de live qui est reparti là? C'est fou ça. Clément Polito, merci pour le 19e mois d'abonnement, c'est adorable, merci beaucoup. Les élections en Argentine, j'ai pas trouvé d'article vraiment carré et passionnant ce matin. Je pense qu'il en sera question sûrement demain dans la matinée Étienne Glogle. Un stream de pole dance, c'est pas prévu non plus, Remake. Je peux pas dire que le sens du rythme m'habite. Voilà. Ouais. Pas prévu, mais bon, après, si vous le souhaitez, ça peut. Dommage, dit Thibaut. T'as une image de la tête du stream de pole dance, quoi. Il y aurait. Le doute m'habite. Le doute est en moi. Le doute. Hein, on peut pas dire le sens du rythme m'habite. Est en moi, quoi. M apostrophe H m'habite, quoi. Je vois pas du tout pourquoi ça bug. 18h30, merci pour le 6e mois d'abonnement. C'est drôle de s'appeler 18h30. C'est un pseudo qui a du sens, surtout une fois par jour à 18h30, quoi. C'est très très drôle. C'est drôle ça, 18h30. J'aime bien. Peut-être que c'est un horaire qui veut dire quelque chose de particulier pour toi. En tout cas, merci, 18h30. C'est bizarre de dire ça à 9h50. Culardon, merci pour le 4e mois d'abonnement. Oh, vous êtes bête. Et voilà, Ren DNG qui a écrit « Le doute m'habite quand les avis divergent. » Oh non, vous êtes grave. Et encore un train de hype, c'est incroyable. C'est dingue. C'est drôle. Vous êtes grave. Bon, on va y aller, hein. Oh, il est drôle ce pseudo. Apollodos, non, Apollodoros Mysticos. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Merci. Bon, petite revue de presse. Oh oh oh, on parlait de bonnes nouvelles, en voici une. DC Black a écrit dans le chat, quelqu'un qui nous parlait de cette situation professionnelle un peu compliquée la semaine dernière, écrit là ce matin à 9h51. Bonjour Samuel, je tenais à te remercier pour ton soutien de la semaine dernière, c'est pas grand chose. Je viens de retrouver un emploi aujourd'hui, j'ai signé ce matin et hop là. Alors ça c'est cool ça. Félicitations, j'espère que c'est un chouette job, intéressant. Avec des gens sympas et accessoirement avec une bonne paye. Enfin, c'est pas accessoirement d'ailleurs, c'est important aussi. Et là, c'est cool, bravo. C'est cool. C'est cool quand les bonnes nouvelles elles viennent de chez vous aussi. Alors, je suis bien content. T'as toutes les félicitations. Ah, MMGCTF attend des nouvelles professionnelles aussi dans pas longtemps. Sans un N plus 1, un N plus 1 tyrannique surtout, dit Diesel. Ah, ça c'est l'essentiel. Hein, appliquez-vous à fuir les gens toxiques dans le boulot. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai. C'est vraiment un luxe qu'il faut s'offrir, quoi. Ne bossez pas avec des gens qui vous font du mal, quoi. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de claquer la porte du jour au lendemain quand on n'a rien d'autre, mais cherchez activement, hein, dès que vous êtes avec des. Disons les mots, hein, des gros cons. Hein. Voilà. Des gens qui vous empoisonnent la vie au travail pour telle ou telle raison, quoi. Et les gens qui sont malheureux comme ça et dont le projet de vie est de rendre malheureux les autres, barrez-vous, quoi. Enfin, trouvez autre chose et chuit, barrez-vous, quoi. Faut fuir ces gens, hein. Allez, go. Vous êtes prêts? On fait un petit sommaire. Là, je vous donne l'essentiel de l'actu, genre en 5 minutes, pour que ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures avec nous, vous avez quand même l'essentiel de l'actu. C'est bizarre ce que dit le Dagda, ça me fait penser à un article ce matin que j'ai trouvé chelou. Et pourtant, ce que tu me dis, ben, du coup, me fait dire que l'article avait peut-être raison. Il y a le Dagda qui écrit « Malheureusement, j'ai l'impression que depuis le Covid, les gens malsains sont de plus en plus présents. » Ce matin, j'ai vu un article que je ne vous ai pas mis de côté sur une étude scientifique qui dit que depuis le Covid, les gens sont plus durs avec les autres, sont plus agressifs avec les autres, sont moins partageurs, sont plus... C'est drôle, ça. Et j'ai trouvé l'article bizarre, je me suis dit « Ah bon ?» Et le Dagda dit la même chose. Vous avez ce sentiment, vous? C'est drôle ce que dit tout le 83, c'est Alexandre Astier qui a dit qu'il ne travaille plus avec des gens avec qui il ne voudrait pas manger. C'est intéressant, ça. C'est étrange, ça, parce qu'en fait, ça... ouais, les gens sont peut-être plus méfiants, dit Nani Zeno. C'est très vrai, me dit Remek, murmurait, je trouve ça très vrai. Oui pour Chloram, pas du tout pour Xedex. J'ai l'impression aussi, me dit Mojibo. Plus individualiste, dirait Roustou. C'est pas faux, Stan. C'est intéressant. Ouais, Lois Lane confirme, moi je suis devenu plus dur depuis le Covid. Ricardo qui dit, moi je suis toujours le même con. On sent une montée de la méfiance, d'une radicalisation entre Kant et MMG7F. Ah, c'est intéressant. Alors l'article n'est pas top en fait. Mais s'il y a une étude scientifique, il y aura peut-être d'autres articles qui vont pop là-dessus. Je vous les mettrai de côté. Ouais, ok. 25 minutes d'intro, on va y aller maintenant. Je vous fais un petit sommaire. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire?
Yeah, baby.
Oh, c'est le meilleur celui-là. C'est parti. Est-ce que j'ai un yes de votre côté aussi? Bonne journée, Rimec, bon courage. Eh ben, c'est parti. Ah bah c'est parti, go. Allez, un petit sommaire, l'essentiel de l'actu, boum, ça donne ça. Hop. Alors, Proche-Orient, bien sûr. Beaucoup de messages de travail ce matin. Attendez, je réponds juste, c'était pour question pour un champion. Oui, parfait. C'est pour... parce que vous savez que je lis toutes les questions avant les émissions, et on me les fait parvenir à la maison. Ouais, merci Frédéric. Et bonne semaine aussi, parce que c'est lundi. Voilà. J'apprends plein de trucs. Je retiens pas tout d'ailleurs. Mais j'apprends plein de trucs. Évidemment qu'on va parler du Proche-Orient ce matin. Hein. Les stars défilent pour la paix. Alors moi, c'est une initiative qui m'a intéressé. C'était, c'était hier, une marche pacifiste à Paris. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreuses célébrités. Je crois que c'est des artistes qui avaient appelé à cette mobilisation. Pas une manifestation pro-israélienne. Pas une manifestation pro palestinienne. Non, une manifestation pour appeler à la paix. Une manifestation dont les gens disaient « Nous ne voulons pas prendre parti, en fait, pour tel ou tel camp. » Voilà. Un mort est un mort palestinien, un mort israélien. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. On lira cet article ensemble, vous me direz ce que vous en pensez. Salut, Sneaky Sam. Bienvenue. Alors, ce qui se passait à Paris... qu'est-ce qui s'est passé maintenant au Proche-Orient? On a un article de l'Opinion ce matin, qui est en une même, qui est assez clair sur les derniers développements de ce conflit, de cette guerre au Proche-Orient. Gaza Hamas, la stratégie d'Israël en question, après 3 semaines d'une intervention musclée sur le terrain, mais sans résultat tangible, Tel Aviv risque de voir s'affaiblir le soutien à sa cause au sein de la communauté internationale. Est-ce que la stratégie militaire d'Israël, avec notamment toutes ces victimes civiles palestiniennes, peut tenir dans le temps? Eh bien, l'opinion en doute, en tout cas, constate que le soutien international est en train de s'affaiblir. Voilà, on verra cet article qui, à mon avis, résume bien la situation aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une espèce de nouvelle philosophie qui s'est développée à votre contact, d'ailleurs, puisque vous êtes nombreux à me dire « Mais Sam, tu ne parles que des drames, des catastrophes, des guerres, des crises, des mauvaises nouvelles. Est-ce que tu ne peux pas aller chercher dans l'actualité aussi parfois des motifs d'espoir ?» Parce qu'il y en a sûrement, et puis, parce que l'humanité, c'est aussi ça, quoi. C'est essayer de régler ce qui ne va pas, mais peut-être aussi trouver des motifs d'espoir. Je ne lis pas le message de Clamakin dans le chat, là, qui est hyper hardcore, mais qui me fait rire. Mais on le lit pas, bien sûr. À vous de le lire si vous voulez. Regardez par exemple cette double page dans La Croix sur la trisomie 21 et sur l'emploi pour les personnes qui sont atteintes de trisomie 21. L'emploi, enjeu essentiel pour les porteurs de trisomie 21. Alors il se trouve qu'il y a la 27e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule du 20 au 26. Hein, donc on est en plein dedans, là, ça commence aujourd'hui, avec de plus en plus de personnes atteintes de la trisomie 21 qui veulent se... trouver leur place dans le monde du travail et dans les entreprises normales, classiques, pas adaptées. Voilà. La conséquence notamment de l'espérance de vie des personnes atteintes de la trisomie 21 qui est, écoutez bien, passée en l'espace d'un siècle, de 9 ans. Hein. Il y a un siècle, les personnes atteintes de la trisomie 21 vivaient jusqu'à genre 9 ans et aujourd'hui 65 ans. Voilà. Donc progrès médicaux, progrès de la médecine sur lesquels on va se pencher d'ailleurs, et puis les progrès médicaux qui continuent, qui se poursuivent avec des traitements pour atténuer les symptômes, les effets de la trisomie 21 sur des personnes adultes. Moi j'ai déjà lu des choses assez fascinantes là-dessus et La Croix nous fait un éclairage aussi, une recherche médicale qui ne cesse de progresser. Voilà, donc on va se pencher là-dessus, je trouve ça vachement intéressant. Hop, Alors, il y a un truc dans l'univers de la tech dont on parle beaucoup là, depuis ce week-end, c'est cette crise au sommet chez Open, comment on dit, on le dit à la française, Open AI, la boîte là, qui est derrière ChatGPT. Comment vous dites les spécialistes là? Je dis Open AI, Open, comment ça se prononce? AI peut-être, Open AI? Ouais, c'est ça. Open AI? Ok, Open AI. Ça vous va, Open AI? C'est A, non, comment on dit? Ah non, E c'est I, non. Ah, comment on dit le A en anglais déjà? A. Oh, AI, ça fait. Ah, oh, c'est dur à dire. Open AI. Oh, fait chier. Oh non, c'est dur. Oh non, c'est dur. Open AI. Ah, bon, on va rester en français alors. Je vais prendre le Open, ça j'y arrive. Je vais faire Open AI. Ok, donc. Quand on viendra sur l'article tout à l'heure, que je dirai OpenAI et que je me ferai reprendre dans le chat, vous serez là en disant ouais, mais là il est fatigué. Il veut pas le prononcer à l'anglaise, ok? Alors, c'est pour qu'on en parle, parce que le patron de l'entreprise, Sam Altman, qui est une entreprise un petit peu particulière, avec un statut un petit peu particulier, vient de se faire virer, renversé par son conseil d'administration. Alors, c'est un peu la polémique du moment, là, du côté de la Silicon Valley. Après 48 heures folles et sous la pression des investisseurs, c'est pas terminé, hein, c'est un feuilleton qui est en cours, le sort du plus célèbre visage de l'industrie de l'intelligence artificielle reste incertain, parce qu'en fait, il pourrait être remis aux commandes. Oh, le joli raid. Oh, le joli raid. Vous avez Radio Paillette qui vient de nous faire un très joli raid. Ça va, les Radio Paillettes? C'est un joli rendez-vous du matin, Radio Paillette. Top, je vous montre d'ailleurs la chaîne. Toc. Et donc le patron d'OpenAI pourrait revenir aux commandes, en fait, sous la pression des actionnaires, en fait. C'est un feuilleton qui est fascinant. Ouais, je vous montre la chaîne qui vient de nous raid à l'instant, Radio Paillette. Merci pour le raid, regardez. Hop, ici, c'est tous les matins, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tiens, mais il y a le planning, on va aller voir le planning d'ailleurs. Juste une bande de potes, venez avec votre plus un, plus on est de fous, plus on stream. Hop, on va aller voir le planning, nous. Lundi, c'est le matin. Lundi, 8h-10h. Mercredi, 8h-10h. Jeudi, épisode indie en podcast en ligne dès 7h. Vendredi, 8h-10h. Voilà. Et là, je vois les visages de Radio Paillette, Ginger, Nico, Emel et Anto Imo. Là, elle m'explique, hein, c'est l'ancienne équipe de Virgin Radio, la radio avec Manu Paillette, effectivement. On en avait parlé déjà ici. Merci beaucoup pour le soutien, pour le raid, c'est adorable. Nous, on est en plein sommaire des articles qu'on va lire ce matin, donc on parlait de cette crise-là chez OpenAI, puisque Papy Sam a décidé de le dire à la française. Le sort du père de ChatGPT déchire l'industrie de l'intelligence artificielle. On va essayer de comprendre pourquoi cette polémique, ce conflit, voilà, qui va bien au-delà du poste de Sam. Ça en fait des Sam Altman, voilà. Et puis, tiens, hop, ouais, j'ai mis double article, celui-là je le supprime. Et puis, c'est l'occasion de se pencher sur les tensions qui agitent l'entreprise, mais au-delà, toute la communauté tech, en fait, sur ces questions. Ah ah ah, parce qu'on est au-delà d'un truc d'entreprise, là, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'IA? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on doit l'encadrer, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle doit servir uniquement au bien de l'humanité, de façon très encadrée? C'est ce que pense une partie du conseil d'administration de l'entreprise qu'on vient d'évoquer. Est-ce que c'est un truc qui doit aussi faire de la thune, voilà, et avec des instruments un peu distribués aux entreprises? Ah, manifestement, il y a un rebondissement. Sam Altman rejoint Microsoft. Il y a plusieurs articles ce matin. Eh bien, on en parlera, effectivement. Parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Où il revenait la tête de l'entreprise sous la pression des investisseurs, notamment Microsoft, où ils créent une nouvelle boîte, voilà, une nouvelle start-up avec pas mal de salariés de l'entreprise, ou alors, nouveau rebondissement, il rejoint Microsoft. Ok, d'après les dernières news, l'ancien PDG de Twitch. Emmett Shear. Ah, l'ancien, waouh. C'est Xara qui me donne les dernières infos. D'après les dernières infos, l'ancien PDG de Twitch, Emmett Shear, je vois très bien qui c'est, a été nommé à sa place. Info de la BBC, Xara qui source ces infos, c'est très important, ça, bravo. Et Sam Altman a été embauché chez Microsoft, source The Guardian, qui est un très bon quotidien britannique. Voilà. Et on remercie Marc Dutroll qui nous rejoint avec un très beau pseudo, avec un commentaire hyper intéressant et qu'on accueille chaleureusement. Pourquoi vous regardez un vieux boomer totalement has-been vous expliquer l'actu LOL ? On dit encore LOL en 2023. Merci Marc Dutroll pour cette intervention très pertinente, pour ton 24e message sur cette chaîne. Merci. Je vois que tu t'es déjà pris un ban par les modos. continue mon ami. Bon lundi, je vois que tu démarres sur les chapeaux de roue. Anis 1233, merci pour le 2e mois d'abonnement. Dave McFly 82, merci pour le 6e mois. Big Steak, merci pour le 9e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Je crois qu'on dit plus LOL. Hein. On disait LOL en 1792, on disait LOL, je crois. Bah, depuis, plus. Hein, plus. On se penchera sur cette histoire et on se penchera également sur les menaces que font peser l'IA sur l'information. Voilà. Les menaces de l'intelligence artificielle, les fausses informations. Voilà. Le progrès fulgurant de ces technologies permet de multiplier les fausses informations. Donc, elles sont beaucoup plus nombreuses. Voilà. Et donc, perfectionner l'efficacité. Un défi de taille pour les médias, et on a un article qui est très bien fait dans le Figaro sur les alarmants progrès de l'IA qui menacent les médias traditionnels et quelles sont les barrières, les outils que mettent en place ces médias traditionnels. Là par exemple c'est la rédaction de TF1, la rédaction de France Télévisions citée par le Figaro pour justement lutter contre les fake news fabriquées par les IA. Ça c'est vachement intéressant. Voilà. Et puis une petite douceur pour terminer avec, c'est assez surprenant, la une des Échos qui est consacré à Elon Musk. Alors, avec les deux visages, le visage réussite, parfois incroyable, hein, de son programme spatial, par exemple, de ses voitures Tesla, et puis un visage plus obscur, avec notamment ses prises de position, ses déclarations. Donc, côté lumineux, le deuxième essai de Starship, la fusée qui doit ramener les hommes sur la Lune, qui certes a explosé, mais a validé plusieurs étapes avant cette explosion, et c'est considéré de la part des spécialistes comme une réussite, et pas comme un échec. Mais l'homme le plus riche du monde qui traverse une mauvaise passe, la Maison Blanche vient de l'accuser d'antisémitisme. L'antisémitisme suite à un tweet, ou plus précisément un tweet qu'il a liké, d'ailleurs, hein, pour être tout à fait précis. Voilà, on ira de quoi elle retourne. C'est page 17 dans les Échos ce matin, si ça vous intéresse. Un article sur Starship, la fusée géante de Musk qui marque des points, ça c'est intéressant. Et puis le génie de l'innovation rattrapé par sa face noire. Je cite, je vais le citer Musk lui-même à propos de ses déclarations parfois à l'emporte-pièce. Musk qui dit de lui-même, je me suis tiré des balles dans le pied si souvent que je devrais m'acheter des bottes en Kevlar. C'est drôle ça. Ah, c'est plus qu'un like, parce que l'article n'était pas précis. Approbation publique en milieu de semaine, et quelqu'un me dit, c'est Ilianas, que ce n'est pas qu'un like. Ouais, l'article n'était pas assez clair, merci à toi. Qu'en fait, il a répondu en disant intéressant ou je suis d'accord, un truc comme ça. Ok. Ah, c'est pas qu'un like. Il a répondu, me dit Onebo. Ok. Et il a même fait un tweet là-dessus, peut-être. Ok, ça n'est pas qu'un like. Ah, c'est autre chose alors. Merci beaucoup Martom V8 pour le gentil message. Voilà. Le tweet, c'est sur... je vous le lirai, mais on est dans le sommaire. Là. On va pas tout développer. C'est un tweet qui... donc le tweet qu'il a approuvé disait que les Juifs organisaient un génocide blanc. Voilà. Alors je suis allé voir... je ne connaissais pas cette notion de génocide blanc. Je suis allé voir de quoi il retourne. Bon, c'est un concept qui est développé dans les milieux d'extrême droite. Génocide blanc, et donc là avec une variante selon laquelle ce génocide blanc, ce serait les Juifs qui en seraient responsables. Oula. Ok. On verra ça tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, les amis. Vous avez l'essentiel de l'actu. Maintenant on va lire tous ces articles en prenant le temps, en discutant, en corrigeant comme on vient de le faire, hein. Non, c'était pas un like, c'était un commentaire. Ouais, bon, exactement ça, on appelle ça l'info augmentée. Je mets des infos j'espère être de la meilleure qualité possible, et puis parfois vous corrigez, vous amendez, vous commentez, vous dénoncez, c'est ça qui est formidable. Alors le nouveau président argentin, on manque de papier, Jolioc, peut-être en raison du décalage horaire. Je pense que demain on aura de beaux papiers sur l'Argentine. Ce soir, il y a un dîner. Nicolas. Je sais pas trop. J'ai un dîner ce soir. Mon amoureuse propose un dîner ce soir. Comme je suis pas à 200%. Ou je reste avec les enfants. Je sais pas trop. On va voir. Un dîner au Fall Guys. Oh non, oh, imaginez, je refuse le dîner. Non, je me sens un peu fatigué. Je vais plutôt rester avec les enfants. Et Hélène va à son dîner. Et elle voit, genre à 21h, une petite notif Fall Guys ou Rocket League ou. Vous imaginez? Vous imaginez ou pas? C'est chaud, non? Ce serait chaud, hein? En vrai. On a un nouveau viewer qui n'est pas là depuis très longtemps, qui a commis son premier message à 9h59, qui a l'air très énervé, qui n'est pas un habitué de cette chaîne, manifestement. Ok, oh là là, ouh mon ami, c'est strike quasiment à chaque fois, quoi. Libertad para Raquel, ou Raquel, je ne sais pas. Comment dire, tu n'es pas un habitué de cette chaîne. Je pense que tu vas enchaîner les messages, comment dire, un peu, tu vois, genre un peu, comment dire, énervé peut-être pendant, peut-être que, respire un peu peut-être. Tu vois, on est ici, il y a plein de gens d'opinions très différentes, mais par contre, on essaie d'en discuter ensemble de façon apaisée. C'est un peu le principe de cette chaîne. Toutes les opinions légales sont autorisées ici, de tous les bords politiques. Opinion légale, à condition qu'il n'y ait aucun propos discriminatoire, ni raciste, ni homophobe, ni sexiste, ni discriminant pour qui que ce soit, et avec un maximum de, voilà, de tentatives de parler ensemble des choses, même au-delà de nos différences. C'est un peu l'espace qu'on essaie de créer ici, qui est à 99,99% validé par les gens qui sont ici. Et tu ne sembles pas t'inscrire dans ce cadre pour l'instant, donc... Je pense que les modos vont surveiller tes messages, parce que c'est quand même en quelques minutes t'es quand même strike à tous les coups, et essaye d'apaiser ou de construire un peu plus ton propos, parce que sinon tu seras invité à aller voir d'autres streams peut-être correspondant plus. Ah ben il est ban dev déjà, ah zut. Il y a un modo qui me dit regarde son dernier message, il est déjà ban dev. Oh, j'étais en train de lui expliquer de faire un effort, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Ah oui, d'accord, je suis un habitué des bannissements de tes... bon, alors je ne dis pas la suite. Alors quand on insulte directement les modos, quand on insulte les modos, il y a zéro débat, il y a zéro main tendue, zéro échange possible. Quand on insulte, alors je ne vous lis pas les mots, c'est vraiment les insultes niveau... Ah bon, je ne peux pas qualifier le niveau, c'est ban def tout de suite, quoi. Voilà. Et je pense que cette personne va sans doute revenir sous un autre compte, puisque je pense que cette personne est déjà venue ici, en fait, puisqu'elle faisait allusion au fait qu'elle avait déjà été ban sur ce stream par les modos. Donc cette personne va sans doute revenir et sera encore à nouveau ban, puisqu'a du mal manifestement à construire ses propos de telle manière à ce qu'on puisse échanger au-delà de nos différences, quoi. Bon, c'est dommage. Peut-être que c'est comme moi sur un jeu vidéo comme Valorant, peut-être que partie après partie, il va comprendre, essayer de progresser, voilà, peut-être, ou pas, on va voir. Bizarre. Bon, on s'est débarrassé de ça pour l'instant, mais ça va sans doute pas durer très très longtemps. Bravo les modos, vous êtes formidables, d'ailleurs je les remercie ce matin. Merci Broubro06, Clamakin, Francis, Harmony, Julio18, MMG7F et Sarah. Pour votre soutien, le soutien que vous apportez à la chaîne en donnant de votre temps pour participer à la modération de cette chaîne. Vous êtes formidable. C'est chaud ce matin, me dit Tatouf, m'étouffe. Non, bah non, c'est Twitch, puis on parle d'actualité, donc t'entends, ça énerve certains. Hein? Voilà. C'est pas plus chaud qu'un habitué. Hein? Ouais, j'ai pas d'article sur les Worlds de League of Legends, scène 26. Je suis sûr que j'en ai un dans l'équipe. J'avoue que je lis moins l'équipe ces derniers temps, chose que je vais corriger, puisque j'ai pris la décision, et Nightbot bien sûr, et Nightbot. J'ai pris la décision de relire l'équipe. Ah, j'en étais sûr, John Doe qui en avait dans l'équipe, j'en étais sûr. Et donc j'ai pris la décision de relire l'équipe. Je vais m'y mettre bientôt pour vous reparler de sport et d'e-sport, parce que bah, les meilleurs papiers sur l'e-sport en France, c'est dans l'équipe. Plipou, merci beaucoup pour le Prime. Alastair 974 pour le 13e mois d'abonnement. Madi 99 Mado pour le 11e mois d'abonnement. Namalilou pour le Prime. Anis 1233, merci encore pour le 2e mois d'abonnement. Dave McFly, je ne sais plus si tu as remercié, je le refais. Ouais. Non, je vais relire l'équipe, notamment pour l'e-sport. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. On parle du Proche-Orient. Let's go. Alors, il y avait une manifestation extrêmement intéressante. Attends, je regarde un truc, quelqu'un me parle d'une actualité, mais que je ne maîtrise, le mot ne me dit rien, je ne sais même pas ce que c'est. Ah oui, je vois ce que c'est. T'inquiète, à propos de Crépol, c'est une actu, je suis. J'attends d'en savoir un peu plus sur cette actualité. Je trouve que les articles sont pas manque d'infos pour l'instant, mais c'est une actu que je suis avec attention et je vous en parlerai dans les prochains jours. C'est une promesse. Une promesse. Donc le Proche-Orient et cette manifestation hier à Paris, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je trouvais que le mot d'ordre était intéressant. Des stars, c'est plutôt des personnalités de la culture, même si certaines sont très connues, qui défilent pour la paix au Proche-Orient. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreuses célébrités, c'est vrai, ont participé ce dimanche à une marche pacifiste appelant à l'union au cessez-le-feu. Bon, il y avait des personnalités du monde des arts, il y avait certaines vedettes, mais il y avait aussi beaucoup de gens comme vous et comme moi qui étaient d'accord avec le mot d'ordre de cette manifestation. J'en ai marre qu'on nous demande de choisir un camp. Je ne le veux pas, je n'y arrive pas. L'horreur de tous ces morts est insupportable, il faut tout faire pour renouer le dialogue. Ça, c'est par exemple le dessinateur belge Philippe Geluck, hein, que vous connaissez, le créateur du chat, la BD, qui le dit. Il est resté jusqu'au bout de cette marche silencieuse pour la paix entre Israël et la Palestine, c'était le mot d'ordre, organisé ce dimanche à l'appel du collectif d'artistes Une autre voix. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'artistes. Une tribune initiée il y a un mois par la comédienne belge Lubna Azabal, qui a été signée par 500 artistes. Donc à l'origine, il y a une tribune et c'est devenu une manifestation. Le texte appelait à l'union, le texte appelait à la paix. Geluck l'a reçu par Julie Gayet, par exemple, la comédienne, qui est réalisatrice aussi, qui était présente dans le cortège il y a 2 semaines. Philippe Geluck qui dit « Même si le problème semble insoluble, Proche-Orient, tu m'étonnes, il faut s'écouter, il faut se soucier de l'autre. » Reviens petit article, parti trop tôt, voilà. « Défendre toutes les victimes innocentes, nous marchons aussi contre tous les racismes. » Oui, Jack Lang est toujours là, bien vu, il est toujours sur la photo, il est là, comme d'habitude. En tête de cortège, les actrices Isabelle Adjani et Emmanuel Béart, la musicienne Yael Naïm, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et son prédécesseur Jack Lang, qui porte une grande banderole blanche, aucune inscription sur les pancartes, les tissus ou les brassards blancs noués autour de quelques bras, juste la couleur de la paix, une injonction au cessez-le-feu. Le comédien Pascal Elbé était là aussi. Pour dire notamment « Chaque tentative de réconciliation est importante. Je me suis senti en phase avec le texte de cette tribune sans éluder les otages et la barbarie. Je trouve qu'on est nombreux et ça fait du bien. » Dans le cortège, 12 500 personnes selon les organisateurs, 3 600 selon la préfecture de police. Il y avait peu de jeunes, hein, la moyenne d'âge était assez élevée. Sylvia et Olivier travaillent dans l'humanitaire, donc étaient aussi dans le cortège. Un couple de cadras qui est venu avec leurs enfants pour dire notamment « La guerre est trop souvent montée en spectacle, il est bien de parler de paix. La majorité des gens en Israël comme en Palestine sont pour la paix. N'importons pas ce conflit en France. » ont-ils encore dit hier, arrêtons les injonctions de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Certains dans ce chat d'ailleurs, pendant que je lis cet article, prennent parti et disent que non, la faute est intégralement du côté israélien ou palestinien. Je vous lis, je vous vois. Bon, ça fait 7 semaines que je vois ces commentaires, donc je ne vais pas les lire tous les jours. N'apportons pas ce conflit en France, arrêtons les injonctions de prendre parti, rassemblons-nous, agissons pour apaiser le dialogue. Voilà. Un autre manifestant dit, un monde où on doit regarder la nationalité de ceux qui meurent pour pleurer, c'est la fin du monde. C'est assez original, cette manifestation. Voilà. Il n'y avait pas un max de monde, hein, quelques milliers de personnes, vous le voyez. Mais ce sont des gens qui refusent de choisir un camp et qui espèrent que les bonnes volontés de part et d'autre, parce que des bonnes volontés côté israélien et palestinien, elles existent depuis toujours, c'est juste que là elles ont perdu, puisque ce sont les extrémistes des deux camps qui ont fait qu'on est arrivé à la situation que vous connaissez aujourd'hui. C'est un sujet qu'on évoque quasiment tous les jours depuis cette semaine sur cette chaîne, donc on ne va pas refaire toute l'historique du conflit israélo-palestinien. Si vous avez le temps et la patience, vous pouvez vous taper, et je pense que c'est impossible à faire, tous mes streams depuis le 7 octobre. Bon courage. Tout ça pour vous dire qu'on ne va pas refaire tout le débat ce matin. Mais ça, c'est une nouvelle info, cette manif d'hier. Je vous lis quand même un petit peu. Alors, Loctane 75 dit, par exemple, moi, je trouve que la marche de la semaine dernière soutenue par la classe politique, pas par tout le monde, hein, était plus importante, celle-ci est plus anecdotique. Alors, la marche de la semaine dernière, c'était contre l'antisémitisme en France. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, libre à toi de considérer que c'est la plus importante. Mais pour le coup, c'est pas le même mot d'ordre, quoi. Malheureusement, écrit Cusora, je pense que cette situation au Proche-Orient ne peut avoir de fin heureuse. Quand on regarde l'histoire de ce conflit, hélas, les faits te donnent raison. Après, la plupart des conflits, heureusement d'ailleurs, finissent par trouver une issue, même si celui-ci dure depuis 1948. La création de l'État d'Israël. Vous êtes plusieurs à souligner que cette marche dont je vous parle dimanche, là, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, n'a pas eu beaucoup d'écho médiatique, tout à fait. Vous êtes plusieurs à me demander même la question de l'impact de cette marche, bah, disons-le, il est quasi nul, mais ça ne m'empêche pas de vous en parler. Ok, on continue avec un dossier assez complet dans l'opinion, le quotidien L'Opinion, sur où on en est aujourd'hui de la situation au Proche-Orient. Pour le coup, ce matin, c'était le dossier qui était le plus complet. Mamo79, merci pour le sixième mois d'abonnement. Plipou pour le Prime. Gaza, Hamas, la stratégie d'Israël aujourd'hui en question. Après 3 semaines d'une intervention musclée, on va dire que musclée, le mot il est faible quand même, sur le terrain, mais sans résultat tangible. En tout cas, c'est l'analyse de l'opinion. Tel Aviv risque de voir s'affaiblir le soutien à sa cause au sein de la communauté internationale. L'opinion qui estime que Israël ne va pas pouvoir continuer comme cela, hein, ses frappes contre la bande de Gaza, visant les militants du Hamas et touchant essentiellement des civils, ne va pas pouvoir durer longtemps. En tout cas, c'est le regard de l'opinion. Lisons cet article. Motivé par la soif de vengeance et par un impératif politique plutôt que par l'évolution d'objectifs militaires clairs et la manière de permettre la paix après le conflit, la réponse d'Israël à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre exige désormais, sinon un ajustement, du moins l'expression d'une plus grande clarté. En effet, à mesure que le nombre de victimes civiles augmente à vue d'œil côté palestinien, le soutien international et l'empathie pour Israël commencent à s'amenuiser. Alors que Tel Aviv a eu un appui fort des principaux gouvernements occidentaux dont sa détermination a mené de puissantes opérations sur le terrain, certains pays commencent à tenir des discours plus nuancés qui pourraient progressivement se transformer en une prise de distance, voire une opposition, les opinions publiques étant très divisées sur la proportionnalité de l'action militaire menée sur le terrain par Tsahal. D'autant que les résultats tardent à se manifester concrètement hein, sur le terrain militaire. Au cours des trois dernières semaines, plus de 40 000 soldats israéliens ont participé à l'offensive contre le Hamas, tout en ciblant, vous le savez, un vaste réseau de tunnels qui permettent aux membres de l'organisation terroriste de se cacher et de mener des activités de guérilla. Les responsables israéliens ont également estimé qu'en frappant aussi profondément au cœur de la ville de Gaza, ils feraient pression sur le Hamas pour obtenir la libération de quelques 240 otages qui sont détenus depuis le 7 octobre. Voilà. Et bien, il faut reconnaître qu'à ce jour, en tout cas, eh bien, les ambitions de cette offensive israélienne ont échoué. Deuxième page de l'article. Trois semaines après l'entrée des troupes au sol dans Gaza, aucun des objectifs n'a été atteint. Le Hamas n'a pas été éradiqué. Les otages n'ont toujours pas été libérés. Au début de la semaine dernière, les soldats israéliens ont affirmé qu'ils contrôlaient la situation, en surface peut-être, mais il est très difficile d'affirmer que le réseau souterrain que le Hamas a pris le temps de bâtir au cours des dernières années soit sous contrôle. Ce qui explique pourquoi Israël a choisi de lancer la deuxième phase de son offensive terrestre et demander aux habitations de quitter le sud de la bande de Gaza. Alors il y a un truc que je ne comprends pas. Enfin là, je pense que je vais lire des papiers dans les prochains jours sur ce point-là parce que vous avez bien compris que l'offensive israélienne a commencé sur le nord de la bande de Gaza et que l'armée israélienne a demandé aux Palestiniens de fuir vers le sud de la bande de Gaza pour échapper aux frappes. Hein. Vous avez suivi ça, je pense. Et là, j'apprends que la deuxième phase de l'offensive terrestre, qui n'est pas encore déclenchée mais qui serait imminente, elle sera vers le sud avec une armée israélienne qui demande aux habitants de quitter le sud de la bande de Gaza. Mais pour aller où ? Personne n'en veut des Palestiniens dans la région. Hein. Hein, l'Égypte ne va pas ouvrir sa frontière au sud. Si les opinions internationales et notamment des pays arabes sont pro-palestiniennes, les gouvernements, pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici, les États de la région n'ont aucune envie d'accueillir des Palestiniens. Voilà. Donc alors là, je ne comprends pas. Là. Ils vont où les Palestiniens, en fait ? Ils veulent forcer la main à l'Égypte, mais à mon avis, l'Égypte, c'est Arkanista qui dit ça, ils veulent forcer la main à l'Égypte, mais l'Égypte ne va jamais lâcher. C'est dingue. Pourquoi personne n'en veut ? Alors, démon pas Zuzu, d'après les articles que j'ai lus sur la question, tout simplement parce que, en fait, alors, pour diverses raisons, bon, ben, tout simplement, c'est une immigration. Hein. C'est les mêmes réactions de rejet que vous avez dans nos pays occidentaux vis-à-vis de l'immigration. Ben, c'est une population qui n'est pas égyptienne, ou qui n'est pas jordanienne, ou qui n'est pas que sais-je, et dont les gouvernements disent, mais nous, on ne veut pas assumer ces populations. On n'en veut pas, en fait. Voilà. Donc ça, ce sont des positions qui ne sont pas celles de l'opinion publique. Hein. De la rue arabe, mais qui est celle des gouvernements. Quoi. Et puis aussi, des craintes exprimées que dans ces populations palestiniennes, il y a de nombreux militants et combattants du Hamas dont ils ne veulent pas non plus sur leur sol. Voilà. Pour diverses raisons, notamment des peurs de déstabilisation du pays. Quoi. Donc, je ne vois pas ce qui peut se passer. Quoi. Et c'est une toute petite phrase, mais c'est super chaud. Quoi. C'est chaud, quoi. Je vous lis. Novaxis 82, merci pour le 22e mois d'abonnement. Melchior 95, c'est intéressant de souligner que les pays arabes dont on pourrait supposer qu'ils sont des sympathisants de la cause palestinienne ont cette position de fermeture. Oui. Plusieurs articles ces dernières semaines ont souligné que la plupart des pays de la région ont abandonné en fait la cause palestinienne, d'où ce processus de rapprochement diplomatique entre Israël et certains pays ces dernières années. L'Arabie Saoudite était sur le point justement de se rapprocher d'Israël, processus qui a été interrompu par ce nouveau conflit au Proche-Orient, mais les pays arabes, et on parle bien des gouvernements et des États et pas des populations, effectivement, ont, disons les choses, hein, pour l'essentiel, pour la plupart, lâché en fait les Palestiniens ces dernières années, en estimant qu'en gros, il fallait passer à autre chose. Quoi. « L'objectif d'Israël, c'est peut-être effectivement, comme le dit Roscoff, d'administrer désormais la bande de Gaza, ce qui dans le passé s'est déjà produit, hein, je crois, pour ne plus avoir affaire à quelconque organisation terroriste et ne plus voir se reproduire les récents attentats. Je crois que dans le passé, ça s'est déjà, cette occupation militaire de la bande de Gaza par Israël s'est déjà produite, et puis les résultats ont été que l'armée israélienne a quitté Gaza, quoi, il y a quelques années. Oui, sans doute. Quand on dit quand Ilyan Azz dit l'objectif d'Israël, c'est que tous les Palestiniens partent à minima, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Si par Israël tu comprends l'État israélien actuel, le gouvernement israélien actuel, qui est un gouvernement de l'extrême droite mené par Benjamin Netanyahou, oui, tu as raison. C'est plus compliqué si ta phrase est les Israéliens souhaitent que les Palestiniens s'en aillent. Il y a une partie importante de la population israélienne qui est pour le dialogue, pour la paix, pour la solution des deux États, pour la coexistence pacifique. De même qu'il y a une partie importante des Palestiniens qui ont souhaité, qui ont rêvé d'une paix avec les Israéliens qui ne s'est pas faite. Mais aujourd'hui, ce sont les extrémistes des deux camps qui ont gagné, le gouvernement Netanyahou d'un côté, le Hamas de l'autre. Voilà, et voilà, on en est aujourd'hui. Rappelons que dans le passé, il y a des partisans du processus de paix qui ont été écartés, qui ont parfois été assassinés. Yitzhak Rabin, l'ancien premier ministre israélien, a été assassiné, par exemple, partisan du processus de paix. Alors la question de Yam Nova, à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'une coexistence pacifique est réellement possible après tant d'années d'horreur et de ressentiment des deux côtés? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question, c'est une très bonne question. Voilà où on en est. Je finis l'article, parce que je me suis arrêté sur cette phrase-là, sur l'offensive qui allait commencer sur le sud de la bande de Gaza, parce qu'elle me semblait importante. Je finis l'article. Voilà. J'en étais à cette phrase qui a provoqué cet échange. Ce qui explique pourquoi Israël a choisi de lancer la deuxième phase de son offensive terrestre et demande aux habitants de quitter le sud de la bande de Gaza. Si cela peut aider à isoler un peu plus les membres du Hamas, il est fort probable que cela s'accompagne de nouvelles pertes humaines, civiles, lesquelles vont contribuer à affaiblir le soutien au gouvernement israélien, au niveau de la communauté internationale, vous l'avez compris. Vous êtes plusieurs à rappeler que la France a réussi à faire la paix avec l'Allemagne, malgré les deux guerres mondiales et l'atrocité des crimes de l'Allemagne nazie. C'est vrai, vous avez raison. Il faut juste que les bonnes personnes soient en charge, comme le dit Capucine. C'est pas faux. Une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global manifeste de plus en plus de réserves, voire d'opposition à l'encontre de Tel Aviv. Cela se reflète dans les déclarations de plus en plus tranchées du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui affirme que Gaza est devenu un cimetière pour enfants. Même aux États-Unis, où l'administration Biden reste solidaire de son allié historique, on assiste à une évolution du discours. De hauts responsables de l'armée américaine évoquent la nécessité d'une guerre limitée qui ne devrait pas durer des mois, en raison de la perte rapide de soutien d'Israël dans le monde entier, au-delà de l'Europe. Sauf effondrement soudain et improbable du Hamas, l'intervention israélienne se prolongera durant les prochains mois sans qu'aucune issue ne soit en vue. Ça, c'est la vision du journal L'Opinion sur le conflit aujourd'hui. Peut-être que l'opinion se trompe, mais l'opinion est en train de nous dire qu'il ne voit pas comment Israël va réussir à atteindre les objectifs de son opération militaire et donc que ce conflit pourrait durer des mois. Quel sera le soutien de la communauté internationale à cette opération si elle s'installe dans le temps? Un soutien qui va sans doute s'affaiblir, s'étioler. Skybritter, merci pour le 14e mois. Funti, merci pour le 23e mois d'abonnement. Je vous lis. Pardon pour les rrrr. J'ai des petites bulles qui remontent du ventre. Je bois du coca parce que je suis un petit peu malade. Je vous lis, hein. Je suis en train de vous lire, plein de messages intéressants. Il y en a qui prend l'exemple de l'Afrique du Sud. Alors, certains sont trop jeunes pour avoir connu le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, mais Nias nous rappelle qu'en Afrique du Sud, il y a eu des années d'horreur et de haine mutuelle, et ce pays nous montre que la cohabitation est possible, même s'il y a encore des tensions. C'est juste. On a l'occasion d'en reparler, on en reparle tous les matins. Depuis 7 semaines ici, y compris le vendredi soir dans l'hebdo Étienne. Allez, il n'y a pas que des drames, que des catastrophes, que des crises dans l'actualité. J'essaie de vous trouver aussi parfois des bonnes nouvelles. J'en ai trouvé une, je trouve, ici, sur la question de la trisomie 21, et notamment de la question de la trisomie 21 en France, avec deux angles intéressants. L'emploi des personnes handicapées en situation de trisomie 21 et aussi les progrès médicaux, scientifiques sur la question. L'emploi, enjeu essentiel pour les porteurs de trisomie 21, c'est un très beau dossier dans La Croix, pages 4 et 5 aujourd'hui. Je vais mal prononcer ton pseudo, mais Ladi Loki, merci pour le soutien. C'est la 27e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui commence aujourd'hui, hein, c'est jusqu'au 26 novembre. Les personnes porteuses de la trisomie 21, notamment, souhaitent se faire une place dans le monde du travail. On va voir pourquoi. Notamment parce qu'en un siècle, alors les chiffres sont complètement fous, en un siècle, l'espérance de vie des personnes porteuses de la trisomie 21 est passée de 9 ans à 65 ans. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui ont une vie beaucoup plus longue maintenant et donc qui peuvent aspirer aussi à s'intégrer, à s'insérer par le travail. Et puis, on se penchera aussi sur les progrès de la médecine là-dessus. Merci David pour le message. D'abord, une rencontre avec une femme de 43 ans qui s'appelle Audrey, qui est atteinte de trisomie 21. Il est 16h45. Comme 4 jours par semaine, Audrey Chabot finit sa journée de travail. Un événement banal, derrière lequel se cache une réalité encore exceptionnelle. À 43 ans, cette Nîmoise porteuse de la trisomie 21 est employée dans une école maternelle. Depuis, ouais, les cafés joyeux, je connais. Si Monoï, c'est très bien. Dans une école maternelle depuis plus de 2 décennies, plus de 20 ans qu'elle travaille dans cette école maternelle. Cette dame, au fil du temps, ses tâches se sont élargies, complexifiées, sous l'œil attentif d'une chargée d'insertion qui s'assure chaque mois que tout va bien. Désormais, Audrey aide les enfants, c'est trop mignon, dans leurs activités, participe à la préparation du déjeuner, du goûter, les surveille en cours de récréation, en toute autonomie. Elle a parlé à La Croix, elle dit « J'ai toujours voulu travailler, j'adore les tout-petits, on fait des jeux, on fête les anniversaires, des fois je les gronde un petit peu quand même ». Raconte-t-elle depuis la voiture de sa maman qui s'appelle Lisette, qui l'accompagne, la ramène chaque jour pour lui éviter le trajet. Elle dit « Faire ce métier me rend très fière. » À Noël, les enfants qui offrent des cadeaux et à la fin de l'année, ils pleurent de devoir la quitter. Audrey est très appréciée, dit encore sa maman. Combien comme Audrey parviennent à se faire une place dans le monde du travail et à garder cette place malgré le handicap? Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de personnes avec trisomie 21 en poste en France, nous dit Annie Eckerlin, qui est membre du conseil d'administration de la Fédération Trisomie 21 France. Donc on sait que beaucoup de personnes qui sont atteintes de trisomie 21 travaillent et beaucoup aspirent à le faire, mais on n'a pas de chiffres assez précis. Je vous lis un petit peu, puis j'enchaîne avec la suite de l'article, qui est vachement intéressant. Non, il n'y a pas de stats, c'est fou. Hein, ouais. Une crée chinoise qui dit que c'est fou. Il n'y a pas de stats. Ouais, moi aussi, je suis un peu surpris. Wasp, merci beaucoup pour le très gentil message. Oh. Wasp écrit, 27 mois, ça commence à faire quand même. J'aime beaucoup la diversification des activités depuis quelques temps. C'est pas terminé. Hein. Je suis prof à la fac. Je cite souvent ta revue de presse à mes étudiants pour les inviter à suivre la presse et l'actu. Merci pour tout. Merci à toi surtout. Il y a Nix, je voulais vous lire le message de Nix. Adichat, qui dit « Rappelons que le handicap est une richesse pour tous lorsqu'on vit ensemble. Chaque mot que tu écris est juste. » On continue. Alors, il y a certains sont touchés plus directement que d'autres par le sujet qu'on évoque. Il y a Artiso 7 qui écrit « Ma sœur est porteuse de trisomie 21. Elle fait des demandes régulièrement pour trouver un travail, mais ça fait des années qu'elle attend sans réponse. » C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Alors, ces dernières années, des portes souvent fermées ont commencé à s'entrouvrir grâce à la mobilisation des associations et la détermination de certains parents. Dans un premier temps, l'enjeu est de scolariser ces enfants, mais quand ils grandissent, après, il y a la question de leur avenir professionnel qui se pose. Une perspective d'autant plus nécessaire pour eux que leur espérance de vie, je vous le disais, s'est considérablement allongée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes adultes avec trisomie 21 souhaitent travailler, hein, comme tout le monde, pour gagner leur vie et pour devenir autonomes. Alors, je vous le disais, les statistiques d'espérance de vie sont incroyables, puisqu'en un siècle, les personnes atteintes de trisomie 21 ont vu leur espérance de vie passer de 9 ans à 65 ans, grâce au progrès de la médecine. Ça, on va en parler aussi ce matin. À l'heure où de nombreux secteurs font face à une pénurie de main-d'œuvre, le taux de chômage des personnes handicapées atteint 12%, donc c'est un chiffre qui est à peu près deux fois supérieur à la moyenne nationale. Pourtant, ces personnes ont toute leur place en entreprise, reprend Annie Eckerlin. Dès qu'elles sont bien accueillies, bien accompagnées, elles remplissent leur mission sans problème. D'ailleurs, quand les entreprises ont eu une première expérience, elles s'arrêtent en général pas là, car elles voient que ça fonctionne. Ce n'est pas de la philanthropie. En milieu ordinaire, donc un milieu de travail non adapté, l'offre concerne majoritairement l'hôtellerie, le tourisme et la restauration, à l'image des cafés joyeux, quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure, qui ont essaimé depuis 2017 et emploient des personnes autistes ou avec trisomie 21. Des métiers de contact humain dans lesquels ces profils, souvent décrits comme sociables et avenants, sont à l'aise. Depuis, alors il y a une loi aussi, hein. Depuis 2018 et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'embaucher 6% de travailleurs en situation de handicap. Je crois que sinon elles ont des amendes, hein, ces entreprises. Sauf que spontanément, elles ne pensent pas forcément à la trisomie 21. Hein. Parler de déficience intellectuelle les fait douter de leurs compétences à intégrer, accueillir des salariés qui sont atteints de trisomie 21. Du coup, beaucoup de ces personnes sont dirigées non pas vers le marché du travail classique, mais le bénévolat ou des établissements ou services d'aide par le travail, ce qu'on appelle les ESAT ou ESAT, je ne sais plus. Sauf que beaucoup de ces établissements se concentrent sur des secteurs d'activité qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, comme par exemple l'entretien d'espaces verts, dit la présidente de Trisomie 21 France. Et puis, ça ne crée pas le même sentiment d'utilité que d'être en entreprise dans un milieu ordinaire. Pour Sonia Fitoussi, qui est maman de Raphaël, un jeune homme de 28 ans qui a atteint trisomie 21, être entouré de personnes, elles aussi en situation de handicap, vous savez, comme dans ces entreprises adaptées, n'est pas toujours souhaitable. Comme nous, ils aiment la diversité. Qui a envie de se voir dans un miroir toute la journée, dit cette maman, qui compare les ESAT aux EHPAD, où les personnes âgées ne se retrouvent qu'entre elles. Voilà pour ce dossier sur l'emploi des personnes en situation de handicap atteintes de trisomie 21. On va se pencher sur les progrès de la recherche médicale qui sont assez impressionnants. Mais d'abord, je vous lis un petit peu. Merci Alexandra pour ton message. Oui, j'ai vu. Oui, tout à fait, j'ai vu. J'ai vu le message de la cantine qui est retweeté en quelque sorte par Nico Manga 95. Alors, il y a des polémiques sur le réseau Café Joyeux. Il y a eu des articles que j'ai lus déjà, mais il y a longtemps, sur le fait que, alors je cite la cantine, qui est un habitué. Salut la cantine, j'espère que tu vas bien. De cette chaîne, les cafés joyeux ne sont pas si roses, les personnes qui financent ne sont pas formidables, loin de là. Alors on ne rentre pas dans le détail, mais il y a un sujet. Idem en termes de contrat de travail. Je connais le sujet, je connais tout à fait la polémique qui n'est pas évoquée par cet article ici. Alors après, même si effectivement tout n'est pas rose, c'est quand même une des rares entreprises en France à essayer d'intégrer de façon importante comme ça, dans le monde du travail classique, des personnes en situation de handicap porteurs de trisomie 21. Donc je connais ces critiques, mais je trouve que la mission générale est quand même intéressante. Pour dire les choses, je pense que si tu allais voir, je sais qu'il y a des soucis, il y a des sujets, hein, notamment sur la philosophie qui est derrière, les associations qui peuvent soutenir les cafés joyeux. Enfin, je connais tout le sujet, je l'ai pas mal documenté. Je pense que si on allait voir les personnes porteuse de trisomie 21 qui travaille pour les cafés joyeux en disant écoute, on va fermer le truc parce que C'est pas clean, clean, clean au niveau des associations qui soutiennent. Et puis, ton contrat de travail n'est pas top, top, top. Donc, tu sais quoi, tu vas rentrer chez toi plutôt. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, la vie, c'est pas toujours noir, blanc, quoi. Donc, je sais que ce truc n'est pas parfait. J'ai lu des articles là-dessus. Mais je veux pas être celui qui va voir ces gens pour dire on va arrêter votre truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je connais la polémique. Je connais la polémique. Merci en tout cas à la consigne pour ton apport, et je vois que tu connais très bien le sujet puisque tu es concerné au quotidien. Je le vois dans ta famille, et voilà. Mais donc je pense que tu as compris ce que je voulais dire en fait. Mais je suis au courant de ces inquiétudes de ce sujet. Ah ouais, vous avez raison, on peut aussi faire pression peut-être sur cette entreprise pour qu'elle se transforme, pour respecter davantage ce qu'on peut évoquer. Alors Zanonox, on ne va pas avoir le temps de faire des recherches là-dessus parce que c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans cette revue de presse. Et si chaque matin on reprend tous les dossiers à l'infini, on va jamais avancer sur l'actu. En revanche, si vous tapez Café Joyeux dans Google Polémique, par exemple, vous avez trouvé des articles parfois émanant de sources rigoureuses, sérieuses, les mêmes que je vous lis le matin. Je crois que Libération a travaillé sur le sujet, par exemple, de mémoire. Et vous avez trouvé ça en 2 secondes, comme des grands. Voilà, c'est aussi à... merci la comptine pour ton message. C'est aussi quelque chose que vous devez savoir. Non, mais la comptine, t'as eu raison d'en parler. Hein. T'excuses pas d'avoir relancé la polémique, c'est important. Hein. Ça montre aussi que derrière l'actu, parfois il faut creuser, chercher. Là par exemple, on a un article de La Croix qui parle des Cafés Joyeux pour dire que c'est top, et puis qui ne souligne pas que par ailleurs il y a des polémiques qui entourent à la marge cette entreprise. Donc ça peut aussi donner envie aux gens de creuser, de chercher. Ouais, ça c'est un très bon réflexe. Très bon réflexe. Voilà. Mais ça je pense que c'est un travail que vous pouvez faire tout seul, quoi. Tu as eu raison en fait, tout à fait, de l'évoquer. C'est un petit pas de côté, mais c'est important. Alors, on a vu que l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 avait explosé littéralement en un siècle, pour passer de 9 à 65 ans, 9 ans, hein, avec des enfants qui mouraient très jeunes, il y a un siècle, aujourd'hui 65 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu des progrès médicaux, de meilleures prises en charge paramédicales ont permis d'améliorer le développement cognitif des personnes porteuses de trisomie. De nombreux traitements sont actuellement à l'étude, non seulement les personnes atteintes de trisomie 21 vivent beaucoup plus vieux, mais en plus, il y a des traitements qui arrivent pour booster leur capacité cognitive. C'est assez incroyable. À l'âge de 10 ans, plus de 95% des enfants porteurs de trisomie 21 aujourd'hui sont encore vivants. En 1929, ils étaient tous morts. Donc là, entre-temps, il y a eu les progrès de la médecine. C'est Christian Biotot, médecin, qui rappelle ces chiffres. Il est président de l'UNAPEI, hein, qui est une des principales associations dans le secteur du handicap intellectuel. L'espérance de vie des personnes trisomiques se situe aujourd'hui autour de 65 ans, quand elle ne dépassait que très rarement 25 ans il y a 50 ans. Cette augmentation s'explique par les progrès de la médecine, en particulier ceux de la chirurgie qui ont permis, quelqu'un me dit mais pourquoi, comment expliquer ça, les progrès de la chirurgie qui ont permis de soigner les malformations cardiaques qui entraînaient une forte mortalité infantile. En fait, il y avait souvent chez les personnes atteintes de trisomie 21 des malformations cardiaques qu'on ne savait pas très très bien traiter, et les progrès de la chirurgie ont permis de les traiter. Si, c'est pas tout, s'y ajoute une meilleure connaissance des troubles thyroïdiens ou encore de l'épilepsie associés également à ce même handicap, une bonne prise en charge paramédicale, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute a également joué sur un autre développement très important, le développement cognitif des patients. En 20 ans, ils ont gagné 20 points de quotient intellectuel. C'est une excellente nouvelle, ajoute le docteur. Donc on a des progrès médicaux, scientifiques, qui ont permis de booster l'espérance de vie de ces personnes et aussi de booster leur développement cognitif. Là, on parle par exemple du travail des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Alors, cette espérance de vie boostée, elle a provoqué d'autres problèmes, nous dit La Croix. Corollaire de ces progrès médicaux, le vieillissement des personnes trisomiques a mis en lumière des besoins spécifiques de prise en charge et d'accompagnement qui n'étaient pas ou peu connus jusqu'alors, des signes physiques et des pathologies normalement observées chez les personnes âgées surviennent à un âge beaucoup plus précoce. Attends, j'ai plein de messages de boulot, je suis désolé, notamment sur le téléthon que je suis en train de préparer. Ok, d'accord. Des signes physiques et des pathologies normalement observées chez les personnes âgées surviennent à un âge beaucoup plus précoce chez ces personnes. Le risque de développer, par exemple, la maladie d'Alzheimer est bien plus important. À 55 ans, 40% des personnes atteintes de trisomie 21 présentent des signes cliniques de la maladie d'Alzheimer, contre moins de 2% pour la population générale. Plusieurs raisons expliquent qu'ils soient plus sujets à développer cette maladie, en particulier les gènes situés sur le chromosome 21 supplémentaire. C'est ça qui est à l'origine de la trisomie 21, fabrique la pathologie amyloïde qui est responsable justement d'Alzheimer. C'est ce qu'explique une directrice de recherche au CNRS. Docteur qui constate que les firmes pharmaceutiques incluent de plus en plus ces populations dans leurs projets de recherche, ça c'est intéressant. Le fait que cette population soit à risque d'Alzheimer fort, eh bien, en fait une cible importante pour comprendre les stades précoces de la maladie d'Alzheimer et trouver des traitements. Comprenez. Les recherches sur la maladie d'Alzheimer chez les personnes atteintes de trisomie 21 peuvent permettre de soigner plus fort, mieux, un jour correctement, la maladie d'Alzheimer. Cela a permis par exemple de confirmer le rôle des peptides amyloïdes. Plus généralement, la recherche scientifique et médicale ne cesse de progresser. Ainsi, alors ça c'est tout, j'en ai entendu parler il y a assez peu, mais c'est fascinant aussi. Une équipe de l'INSERM et le Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne ont testé l'efficacité d'une thérapie fondée sur l'injection de l'hormone GnRH qui permet d'améliorer les fonctions cognitives des porteurs de trisomie 21. On parle d'une injection, on parle d'un traitement. Le résultat de l'essai clinique est prometteur. Sur 7 hommes, alors 7 c'est pas beaucoup, hein, c'est une toute petite expérience pour l'instant. Sur 7 hommes ayant reçu une dose de GnRH en sous-cutané, 6 ont vu leur performance cognitive nettement augmenter. Les retours de leurs proches ont été extrêmement positifs. Leur efficacité au travail a changé du tout au tout. Un psychiatre nous a dit être ébahi de l'amélioration de la fluidité verbale de son patient. Avant de confirmer ses résultats, hein, avec ce nouveau traitement, un essai plus vaste doit bientôt commencer sur 60 volontaires, 30 hommes et 30 femmes. Voilà. Dans l'actualité, il y a aussi parfois des bonnes nouvelles ici sur le front, en fait, de l'amélioration de la vie des personnes atteintes de trisomie 21 grâce à la médecine, grâce à la science. Comme le dit Sissim 4 à l'instant, les progrès de la médecine sont fous. C'est ce que je trouve intéressant dans cet article. C'est là qu'on voit que l'humain est capable du meilleur aussi. C'est dur ça. Et alors, waouh, c'est un message très dur, mais très, très touchant. Il y a Lorna qui nous dit « Mon père, qui est né en 1947, me racontait qu'étant enfant, on lui disait de ne pas être ami avec les enfants trisomiques parce qu'ils étaient mourants, enfin qu'ils avaient une espérance de vie très réduite. C'était terrible, vive la médecine. » Waouh. Waouh. Alors, tout à l'heure, sur notre échange que nous avons eu, qui a été lancé par La Cantine, et il a eu raison de le lancer. Il y a petit papier de Betty qui dit « Je n'ai jamais été servi avec autant de gentillesse que par les salariés du Café Joyeux. L'inclusion est une richesse pour tout le monde, merci de le rappeler. » Au-delà du débat sur les Cafés Joyeux que nous avons eu tout à l'heure, c'est vrai que moi, pour y être allé à plusieurs reprises au Café Joyeux, que ce soit à Paris ou à Rennes, à chaque fois, le plaisir des salariés d'être là-bas, en milieu de travail normal, pas adapté, au contact d'autres salariés sans trisomie 21 et de clients... sans trisomie 21, c'est vrai que ça faisait plaisir à voir, quoi. C'est vrai. Voilà, bel article, c'est à lire dans La Croix aujourd'hui, pages 4 et 5. En tout cas, je vois plein de beaux messages sur le sujet du handicap, notamment du handicap mental. Voilà, et je vous en remercie. Ouais. À suivre. Est-ce que j'ai le droit de me faire un petit café? Je vais voir. Je sais pas. Ouh, je suis interdit de café. Je suis interdit de café parce que je suis mal du ventre. Et je bois du coca, mais c'est pas pareil. Sinon, je prends un Red Bull, mais peut-être prendre un petit Red Bull, peut-être. Mais voilà. 598 553 followers. C'est drôle parce que les 600 000 vont quasiment coïncider avec les 3 ans de cette chaîne. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Alors, on va parler d'OpenAI. Je le prononce à la française parce que c'est plus simple pour moi le matin. Avec la crise au sommet de l'entreprise, avec un rebondissement qui est arrivé à l'instant. Donc, il y a une crise de gouvernance, hein, puisque le patron a été débarqué par le conseil d'administration. Ça nous permet de parler d'intelligence artificielle. Parce que derrière, en fait, ce truc qui semble être juste un problème interne à une boîte, en fait, on se rend compte que derrière ça, en fait, il y a plein de tensions qui agitent l'entreprise, mais également la communauté tech autour de ce que doit être l'intelligence artificielle. À quoi elle doit servir ? Comment elle doit être encadrée, tout ça. Et puis, on se penchera justement avec le Figaro sur l'intelligence artificielle, mais sur un sujet précis, sur les risques, les dangers que ça fait peser sur l'information, avec des IA qui vont être de plus en plus en capacité de former massivement, de fabriquer, pardon, de produire massivement des fake news, voilà, et de avec une qualité qui va grandissante, quoi. Est-ce qu'on va être en capacité dans les prochains mois d'arriver à déceler correctement, suffisamment tôt, les fake news produites par IA avant qu'elles te soient baladées un petit peu à travers la planète? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a un papier qui est passionnant dans le Figaro sur cette question. Et puisqu'on parle d'IA, puisque Musk s'intéresse beaucoup à la question aussi, on a un dossier dans les échos sur les deux visages d'Elon Musk. Le Musk qui réussit, hein, avec Starship. Il y a eu explosion, mais ce deuxième lancement de Starship, la fusée qui doit ramener les hommes sur la Lune, est quand même un succès. Il y a bien sûr les bagnoles, Tesla, mais il y a aussi un deuxième visage un peu plus obscur de Musk avec ses propos, et notamment des propos sur Twitter condamnés par Washington, par la Maison Blanche, qui l'accuse d'antisémitisme. Donc on finira avec ce dossier très très léger. Enfin, on finira avec ce dossier, non. On finira avec un petit horoscope et peut-être même avec un petit peu de gaming. Peut-être qu'on sera un petit peu de Rocket League ou, je sais pas, peut-être de Fall Guys, on verra. Je vais me faire un petit café, ok? Je vous lance une petite pause de 2 minutes. Ouais, petite musique. On a une petite musique sympa tout à l'heure, là. Je vous la remets, pas trop fort. Je vous mets 2-3 minutes de musique, les abonnés. Une petite page de pub pour les autres. On se retrouve dans 2-3 minutes pour parler pas mal d'IA, en fait. Ça va être assez intéressant. La musique, elle est où? Elle est là. À tout de suite, bande de belles personnes, et merci d'être là. C'est cool de parler d'actu avec vous. Pas mal, ça. À tout de suite. I'm fucking J'arrive. Tu l'as en une seconde. Ok. Pas mal ça. Petite musique un peu chill là. Qu'on mettra peut-être en... pour la musique du raid tout à l'heure. Voilà, d'ici une heure, je pense. Une heure et demie, on verra. Qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous ? Non, ça peut le faire, ça peut le faire. Tranquille, tranquille. Peut-être qu'on pourra jouer un petit peu de Fall Guys ou de Rocket League juste avant de se quitter. Histoire de se détendre un petit peu. C'est de la Synth Wave. Ah, c'est ça ? Ah oui, c'est marqué. C'est bien ça, Synth Wave. C'est bien ça. C'est marqué sur mon site là, de musique libre de droit. C'est marqué Synthwave. C'est bien ça. Je connaissais pas. C'est bien ça. Vous aimez ? Très très chouette, très très chouette pour les streams. Ça me rappelle mes jeunes années, me dit Alastair. Encore mieux, la Vaporwave, tu devrais tester, ça te rappellera tes années folles. Je connais pas tout ça. Oh, c'est mignon. Il y a Steph qui dit bonjour Sam, j'ai découvert ta chaîne grâce à mon fils de 15 ans, salut. Tous les deux. Je ne comprenais pas sa passion pour un jeu vidéo, mais au lieu de critiquer, j'ai d'abord tenté de comprendre, et grâce à toi, j'ai compris Minecraft. Et nous discutons beaucoup plus à présent sur ses passions et sur les sujets d'actualité que tu abordes. Merci à toi. Oh là. Mais ça me touche au cœur, moi, ce genre de message. C'est ouf. Oh. C'est trop gentil. Ça me fait trop plaisir. Alors moi, sachez que, en tout cas, à la maison, déjà, ça a créé beaucoup de discussions. Excusez-moi, je parle avec mon épouse, des enfants qui sont un petit peu malades. Tu veux que je réponde dans le fil WhatsApp pour... Excusez-moi, c'est le truc de famille. Voilà. Ok. Non mais c'est vrai, par exemple à la maison, mon grand lui est passionné de jeux vidéo, il a 7 ans depuis que son oncle, l'adorable petit frère d'Hélène, Hugo, tonton Nigo comme dit mon petit sol de 3 ans qui a du mal à prononcer certains mots, tonton Nigo, c'est tonton Hugo, qui est adorable et donc il est passionné de jeux vidéo, et ben du coup ça nous crée un lien, un sujet de discussion, comme il s'est rendu compte que papa essaie de comprendre aussi cet univers, on en parle tous les deux beaucoup, et c'est cool. Voilà. Tonton Nigo, trop mignon. Voilà. Merci beaucoup. Tool, j'avais pas vu, pour les 5 abonnements offerts à la commu. Cyrielou, merci pour le 4e mois d'abonnement. Was pour le 27e mois d'abonnement. Encore merci, je crois qu'on est au maximum. Et encore merci de parler de cette revue de presse à tes étudiants, je trouve ça super cool. C'est parti pour cette polémique là, dans l'univers de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ChatGPT, crise de sommet chez OpenAI, l'éviction surprise de Sam Altman, donc le père de ChatGPT, hein, cette appli dont tout le monde parle, renversée, ça n'est pas rien, par son conseil d'administration, a mis le feu aux poudres dans toute la Silicon Valley. Après 48 heures folles et sous la pression de ses investisseurs, le sort du plus célèbre visage de l'industrie de l'IA reste incertain. Vous avez été plusieurs à me dire que on a appris il y a quelques heures que Sam Altman venait d'être embauché par Microsoft. El Papino, merci pour le deuxième mois d'abonnement. On ira voir ça tout à l'heure. Merci au Modo qui me met déjà l'article pour actualiser cette actu. Mais au-delà de l'actualité du cas Sam Altman, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, comment, c'est ça qui est intéressant. Le sort du père de ChatGPT donc déchire l'industrie de l'intelligence artificielle, page 25 dans le Figaro aujourd'hui. Renversé par son conseil d'administration, Sam Altman pourrait revenir sous la pression des investisseurs ou pas, parce qu'a priori il serait parti chez Microsoft. Mais à mon avis, ce feuilleton n'est pas terminé. Qu'a donc fait Sam Altman pour se faire brusquement débarquer de la direction de l'entreprise OpenAI? Cette question a profondément secoué vendredi la Silicon Valley à l'annonce de l'éviction inattendue d'un des plus célèbres et charismatiques visages de l'industrie de l'intelligence artificielle, renversé par son propre conseil d'administration. À peine 24 heures plus tard, une autre interrogation a pris le dessus. Sam Altman s'apprête-t-il à être réinstallé de force par certains investisseurs d'OpenAI et en premier lieu Microsoft? qui exerce une pression croissante sur les administrateurs de l'entreprise. Ou choisira-t-il de lancer une entreprise rivale, épaulée par des salariés loyaux qui ont déjà commencé à rédiger leur lettre de démission? Quelle que soit l'issue de ce bras de fer, le visage de l'entreprise créatrice de ChatGPT ne sera plus jamais le même. Ce week-end à... Super. Excusez-moi, je parle avec mon épouse, des enfants, là, un petit cas de virus, le mec qui est réglé, mais on est sur la fin du sujet. Ce week-end à couteau tiré a révélé un schisme profond au sein de l'entreprise, mais aussi de l'écosystème de l'IA. D'un côté, les pragmatiques qui entendent démultiplier les produits commerciaux. Ça, c'est intéressant. Je ralentis un petit peu parce que vous allez comprendre le pourquoi de la polémique. Ce week-end à couteau tiré a révélé un schisme profond au sein de l'entreprise, mais aussi de l'écosystème de l'IA. D'un côté, les pragmatiques qui entendent faire quoi ? Démultiplier les produits commerciaux qui s'appuient sur une technologie transformative de plus en plus puissante. Voilà. Oui, un peu ça, c'est profit versus sécurité. Kermit résume très bien. De l'autre, ceux qui appellent à ne pas sacrifier sur l'autel des profits, la sûreté de ces systèmes, qui à l'image du nucléaire pourrait représenter une menace pour la santé, pour la société humaine, s'ils ne sont pas parfaitement maîtrisés. Le coup de force du conseil d'administration d'OpenAI ne peut se comprendre, se revenir aux fondamentaux et aux origines de l'entreprise, qui est une entreprise un petit peu particulière en fait, qui n'est pas une entreprise capitalistique classique quoi. Fondée en 2015 par Sam Altman avec l'appui financier d'Elon Musk à l'époque et de Reid Hoffman, qui est le créateur de LinkedIn, cette structure était à l'origine un laboratoire de recherche à but non lucratif, doté d'une mission centrale, bâtir une intelligence artificielle générale, sûre et au bénéfice de l'humanité. Ça, c'était le premier projet. Pour y parvenir, l'entreprise a fait un choix qui est un peu particulier. Sa branche commerciale OpenAI LP, créée en 2019 pour attirer les capitaux indispensables à ses recherches, est sous la supervision de la fondation qui est à but non lucratif. Vous suivez toujours ? C'est intéressant. Hein ? C'est pourquoi aucun des grands financeurs d'OpenAI, Microsoft par exemple, n'est représenté au conseil, alors qu'ils ont mis plein de thunes. D'après plusieurs médias américains, les administrateurs reprocheraient à Sam Altman d'être allé trop loin dans le développement commercial d'OpenAI sans se soucier assez de la sûreté des produits mis en vente. Comme le dit Topper Harley, c'est Skynet qui nous aura tous. Le conseil d'administration a sous-estimé toutefois les appuis de l'entrepreneur, puisque depuis samedi, Microsoft, Thrive Capital et Tiger Global Management, qui sont les principaux actionnaires d'OpenAI LT, s'activent pour contraindre les administrateurs à réinstaller Sam Altman aux commandes. Sauf que vous m'avez appris ce matin que, entre-temps, il avait été annoncé chez Microsoft. On va aller voir cet article dans un instant. Sam Altman serait prêt à reprendre les rênes d'OpenAI si on lui donne l'opportunité, mais cela se ferait probablement au prix d'un chambardement total de la gouvernance de l'entreprise, quoi. Un bon règlement au cacoral, quoi. L'entrepreneur qui a l'oreille des grands de ce monde et est parfois consulté tel un oracle sur le futur de l'IA a aussi travaillé sur un plan B. Samedi, il a fait le tour des actionnaires d'OpenAI, d'autres fonds d'investissement également, qui se disent prêts à le soutenir s'il lançait une nouvelle start-up de l'IA. De nombreux chercheurs d'OpenAI se tiennent prêts à les rejoindre. Le cas échéant, les prochaines heures seront décisives. Or, vous m'avez dit tout à l'heure, vous qui suivez l'actualité, qu'il y a un nouvel épisode que voici. Merci les modos, merci MMG7F pour cet article publié. Excusez-moi, il faut que je réponde à mon épouse pour le restaurant de ce soir. Ok, avec plaisir. C'est pour les enfants. L'actu, c'est bien, mais l'amour, c'est mieux. Donc, regardez. Hop. Microsoft va donc embaucher Sam Altman. Ça, c'est le dernier épisode. L'ancien patron d'OpenAI. Pour diriger une équipe de recherche en IA. Chaque jour, son rebondissement. On est en plein dedans. C'est le patron de Microsoft lui-même qui l'a annoncé sur X/Twitter. Ok, nous sommes très heureux d'annoncer que Sam Altman ainsi que Greg Brockman et d'autres vont rejoindre Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA avancée. Microsoft qui était l'un des principaux investisseurs de l'entreprise OpenAI. Ok. Intéressant, intéressant. À mon avis, c'est pas terminé cette histoire. Vous en pensez quoi? Et après, on va aller plus loin. On va voir ce qui, pourquoi il y a toutes ces tensions qui ne sont pas propres à cette entreprise, qui sont propres à tout le secteur, en fait, de l'IA. Et là, on va sur à quoi doit servir l'IA et est-ce qu'il faut mettre des garde-fous, quoi. Vous en pensez quoi? Il y a Le Monde qui a fait un article aussi. Merci, vous êtes formidable. Merci les modos. Ouais, qui reprend toutes les infos qu'on vient d'évoquer. Hein. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais c'est intéressant de l'avoir aussi. Hop, je vous remets l'article des Échos, page 24, et je vous lis maintenant sur ce sujet que vous connaissez peut-être très bien. Ouais, exactement, on l'a lu tout à l'heure. Hermet Scheer, co-fondateur de Twitch, devient président par intérim de OpenAI, exactement. C'est l'ancien patron de Twitch, Hermet Scheer. Je crois que c'est un peu lui qui a beaucoup développé Twitch, d'ailleurs, l'ancien patron Hermet Scheer. Je vous lis. Hein. Alors, quelques-uns me parlaient des, comment dire, des accusations portées contre, a priori, Sam Altman d'ordre privé. Je les apprends avec vous. Je ne trouve, dans les articles que je lis, personne n'y fait référence. Hein? Donc, je vais faire mes recherches et puis je vais surveiller l'actu, mais rien dans les articles que j'ai lus ce matin là-dessus. J'aime l'humour de Walt McCloud. Je suis plus proche de la bêtise naturelle que de l'intelligence artificielle. J'aime bien. Merci, c'est Lucario, pour le petit message sur le stream d'hier soir. Non, il y a quelqu'un qui me demande la caméra que j'utilise. C'est pas une webcam, quoi. Ou c'est pas. Non, c'est maintenant c'est un petit appareil Sony, petit appareil photo Sony, qui est très utilisé par pas mal de streamers. En fait, je l'ai découvert lors d'opérations caritatives. En fait, où beaucoup de streamers se réunissent et j'ai vu que le même petit appareil Sony, qui est tout petit, qui est très compact, était utilisé par beaucoup. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai fait des recherches. Et c'est vrai, je me suis rendu compte qu'il avait cet appareil qui est autofocus, qui fait tout automatiquement, très facile d'emploi, fait une belle image en fait. Donc voilà, je sais que depuis quelques mois, j'ai cette petite caméra. Allez, on continue parce qu'on va aller au-delà de l'entreprise maintenant. Montre-la pour voir. Alors c'est compliqué, Chamanit, de montrer cette caméra avec ma caméra. En fait, tu vois le concept. C'est-à-dire, si je prends la caméra pour montrer la caméra, il va se passer un truc intéressant, mais qui ne sera pas la caméra. Je ne vais pas te la montrer, quoi. Si tu vois le pourquoi du comment. Il me faudrait une autre caméra, quoi. Voilà. Un miroir. J'ai que ça à foutre d'aller chercher un miroir pour montrer ma caméra, quoi. Chamonix dit, je sais, c'était la blague. Sauf que c'est drôle, parce que toi, tu as fait une blague, et moi, j'ai bien compris que c'était une blague, et tu as la moitié du chat qui dit, ben, va chercher un miroir. C'est pas Versailles ici, hein. Dans la salle de bain, Renan dit dans la salle de bain, c'est pas Versailles ici, hein. Il y a même pas de miroir dans la salle de bain, c'est un studio de stream ici, hein. Hein. Ça va, et puis en plus je l'ai payé cette caméra, je vais pas en faire la pub, et oh, il y a qu'à me l'offrir, hein. tant pis pour eux, pour en même temps je l'aurais pas demandé non plus, hein. Allez, on se penche sur ces tensions qui agitent l'OpenAI, OpenAI, mais pas seulement, toute la communauté tech. Parce que ces débats, en fait, ils traversent, en fait, ils fracturent toutes les boîtes qui travaillent sur l'IA. Et là, ça devient très, très, très intéressant. Être collaboratif ou pas, déjà. Et certains y faisaient référence. Faut-il parier sur l'intelligence artificielle collaborative dite open source ou développer des grands modèles de langage fermé, ce qui n'est pas la même chose. Ce débat agite la communauté de l'IA et les salariés d'OpenAI n'échappent pas à la règle. À ses débuts, le groupe californien avait une approche ouverte de l'innovation, d'où son nom, OpenIA, AI plutôt. Mais au fil du temps, l'entreprise s'est refermée à double tour et est désormais accusée par ses concurrents d'être une boîte noire. Très intéressant. Première question, collaboratif ou pas? Deuxième question, être une organisation à but non lucratif ou pas? Lors de sa création en 2015, OpenAI était une organisation à but non lucratif, dont l'objectif était quoi? Était de créer une intelligence artificielle générale et sûre qui agirait, on l'a dit tout à l'heure, au profit de l'humanité. C'est sympa. Quatre ans plus tard, le projet a évolué. OpenAI est devenu une société à but lucratif plafonné, afin de faire entrer des investisseurs à son capital, comme Microsoft, par exemple. Depuis ce changement, OpenAI a un but commercial plus assumé. En novembre 2022, la startup a dévoilé le robot conversationnel ChatGPT que vous connaissez, un produit qui a bluffé le monde et qui devrait permettre à OpenAI de dépasser le milliard de dollars, ce qui est beaucoup quand même, de revenus cette année. La valorisation d'OpenAI s'est envolée. Troisième question, et pas la moindre, l'IA une menace pour l'humanité ou pas? L'adoption massive des innovations d'OpenAI s'est accompagnée aussitôt de débats enflammés qu'on a évoqués bien sûr ici sur le pouvoir de nuisance des intelligences artificielles qui pourraient être utilisées pour mener des attaques nucléaires ou concevoir des armes bactériologiques. Certains experts appellent d'ailleurs à une pause afin de stopper cet emballement. Tout en concédant qu'il existe des menaces, Sam Altman appartient à la catégorie dite des rassuristes. À leurs yeux, l'IA sera maîtrisée et va transformer les entreprises en profondeur. Tout va bien, c'est que du bonheur, plus de productivité, voilà, et une planète qui sera heureuse et qui aura le sourire grâce à l'IA. Ce discours n'est pas unanimement partagé. Elon Musk, autre cofondateur d'OpenAI, a claqué la porte du laboratoire en 2018 et ne cesse de mettre en garde contre les dangers de l'IA, voilà. Ce qui ne l'empêche pas, c'est toujours compliqué avec Elon Musk, de développer en parallèle ses propres projets avec X/Twitter et Tesla exploitant cette technologie. Voilà. D'ailleurs, on va parler de Musk dans un instant. Intéressant ce débat quand même. Hein. Coca. Non, l'ami Inforéa, allez voir la chaîne Inforéa qui fait un magnifique travail de réparation, de récupération des outils numériques pour les filer notamment à des écoles, à des assos. Inforéa, merci beaucoup pour le 22e mois d'abonnement. Et hop, la chaîne Inforéa est dans le chat. Merci les modos. Honnête Beau estime que tous les industriels qui demandent un ralentissement des IA, c'est juste pour rattraper le retard et avoir leur part du gâteau. Skynet apparaîtra vers quelle année selon toi, Samuel Tien me demande à Aster. Je pense qu'il faut poser la question à Sarah Connor. Je pense que c'est Sarah Connor qui a la réponse. Moi, je ne l'ai pas. C'est à côté, oui. Oui, c'est la ref. C'est à côté. C'est à côté. Sarah Connor, c'est à côté. Exactement. Alors, il y a toujours et un dossier que je trouve très bien fait dans Le Figaro sur les menaces de l'IA, de l'intelligence artificielle, sur l'information et notamment sur la désinformation. Les progrès fulgurants de ces technologies permettent de multiplier les fausses informations et d'en perfectionner l'efficacité, c'est-à-dire d'en fabriquer de plus en plus, d'en produire de plus en plus des fake news, des fausses informations, mais aussi de les rendre plus difficiles à confondre. Un défi de taille pour les médias, pour le coup c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on évoque au quotidien ici, comment reconnaître une information fiable, une information qui ne l'est pas, comment identifier la qualité d'une source, comment soupçonner à un moment une manipulation, c'est un travail qui est extrêmement compliqué, qui est essentiel dans une démocratie pour que les citoyens soient informés à peu près dans de bonnes conditions. L'évolution, article dans le Figaro. Figaro. Page écho, page 28 et 29. L'évolution très rapide. Des technologies d'intelligence artificielle générative ces derniers mois incarnent une nouvelle arme sur le champ de bataille de la désinformation à la portée de tous. Ces outils capables de transformer, diffuser des photos, des vidéos, des voix menacent de déséquilibrer un peu plus le rapport des citoyens à l'information en rendant parfois très difficile, voire quasi impossible, de distinguer la frontière entre le vrai et le faux. Plusieurs exemples dans le monde ont montré récemment que les risques que fait planer cette désinformation synthétique sur les médias traditionnels et de la démocratie sont une réalité. Face à ce danger, les rédactions sont entrées dans une ère d'hypervigilance et renforcent leur défense pour continuer de garantir des informations toujours vérifiées. Dans la longue bataille qui vient de s'engager, il faudra aussi développer dès le plus jeune âge l'esprit critique de chacun. Ce sont des sujets qu'on évoque au quotidien ici depuis quasiment 3 ans. Allons-y. Désinformation, les alarmants, progrès de l'IA menacent les médias traditionnels. Hop, article de Claudine Salé et Claudia Cohen. Alors, le Figaro revient d'abord sur cette photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'était une manifestation. Alors, où elle se trouvait cette manif? On va le rappeler dans un instant. Le manifestant était réel et il brandissait une photo qui était censée, je crois, être la photo d'un bébé palestinien. Il la brandissait réellement dans une vraie manif. Ok, le manifestant est réel, la manif est réelle. Il brandissait réellement cette image, mais l'image avait été fabriquée par IA. Et Libération s'est fait avoir et a mis cette photo en une du journal. Voilà, le Figaro revient là-dessus. Donc par exemple, Libé s'est fait avoir et s'est excusé d'ailleurs le lendemain, peu de temps après. En expliquant qu'effectivement il s'était fait avoir, ainsi que l'agence de presse de photos qui leur avait vendu la photo. Une vraie photo d'un manifestant pro-palestinien au Caire brandissant la fausse image générée par intelligence artificielle d'une fillette ensevelie sous les gravats, affichée en une de Libération le 19 octobre dernier, cette photo que je viens de vous montrer. Un vrai manifestant, une vraie manif, une fausse photo qui s'est retrouvée à la une d'un vrai journal. Voilà. Bon, Libération s'est excusé. Voilà. Mais ça illustre bien le problème. La menace que fait planer la désinformation synthétique sur les médias traditionnels est déjà une réalité, la preuve. Vous n'étiez pas au courant de l'info? Ouais, si. La menace et la reprise par Libé de ce que certains ont dénoncé comme une fake news n'est pas un cas isolé. Fin septembre en Slovaquie, alors ça, moi je ne connaissais pas l'histoire, mais l'histoire elle est dingue. Fin septembre en Slovaquie, Michal Šimečka, candidat malheureux aux législatives, leader du Parti progressiste, est victime d'un faux enregistrement audio, 2 jours avant l'élection. On entend cet homme politique confier à une journaliste comment il compte truquer l'élection. La reprise par certains médias du pays de cet enregistrement, généré en réalité par un outil d'IA, aura contribué à distiller le tout dans l'esprit des électeurs. Voilà. Incroyable quand même, incroyable. Donc ça existe, c'est présent et ça a déjà des conséquences ici sur une élection avec ce faux enregistrement audio. Si la menace désinformationnelle est loin d'être nouvelle, les progrès fulgurants de l'IA incarnent une nouvelle arme pour les acteurs malveillants qui souhaiteraient troubler, comme ici, le débat public. Désormais à la portée de tous, ces outils capables de fabriquer, de transformer, de diffuser des textes, des images, des sons, des vidéos, promettent de déséquilibrer un peu plus le rapport des citoyens à l'information. Avec l'IA générative qui a explosé depuis l'automne dernier, le potentiel de désinformation est énorme, dit par exemple Grégoire Lemarchand, qui est rédacteur en chef investigation numérique de l'agence France Presse. L'article donne également la parole à David Collomb, qui est chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po. À l'industrialisation de la fabrication du faux, donc des fabrications de plus en plus massives de fake news, s'ajoute en effet la multiplication des médias synthétiques, des sites d'information qui ont l'apparence du vrai, mais en fait qui sont intégralement conçus par des IA. Donc c'est des fausses informations, mais c'est aussi des sites qui ne sont pas des vrais sites d'information, qui ne font que collecter des informations qui sont plus ou moins vérifiées. En clair, l'IA est à la fois un démultiplicateur de contenu des informateurs et un perfectionnement de l'efficacité de ces contenus. Alors, à l'instant, il y a Flotte qui dit « Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'estampiller obligatoirement les objets créés par IA ?» Alors, oui, On peut demander à des acteurs, et je crois d'ailleurs que c'est déjà une obligation dans la publicité en France, de dire quand une image a été générée par IA. Je l'ai déjà vu sur des pubs en petit, en bas, à gauche, genre image générée par IA. Je crois que c'est une obligation. En revanche, évidemment, quelqu'un qui veut vous manipuler, vous désinformer, il ne va pas mettre image générée par IA. On est d'accord. Il y a la loi, mais encore faut-il la respecter, quoi. Face à ce virus de la désinformation dont l'agressivité est décuplée par l'IA, les anticorps produits par les médias traditionnels sont-ils suffisamment puissants ? Tous les médias, sans exception, sont susceptibles d'être trompés un jour par l'IA. C'est Thierry Tuilier, qui est le patron de l'info de TF1, qui dit ça. Tous les médias, à ce stade, ça n'est pas encore arrivé chez nous, dit-il. Mais il laisse bien entendre que on n'est jamais à l'abri d'un faux pas, la preuve, la une de Libération dont on a parlé. À ce stade, cela n'est pas encore arrivé chez TF1. N'empêche, nous sommes incontestablement engagés, dit-il, dans une guerre de l'information. TF1 donc, qui a réorganisé sa rédaction et formé une vingtaine de journalistes qui, à l'aide d'outils techniques, vérifient les images et traquent tout ce qui peut être fake. Même préoccupation chez France Télévisions. Il y a une cellule qui a été créée, les révélateurs. Toutes les images provenant de l'extérieur doivent être vérifiées, contrôlées et certifiées, indique le patron de l'info de France Télévisions. 5 personnes travaillent à temps plein pour passer au peigne fin les sources visuelles qui sont diffusées et qui viennent de l'extérieur, puisqu'il y a toutes les images qui viennent de l'intérieur, de l'interne des équipes de France Télévisions qui sont fabriquées par les journalistes de France Télévisions. Et là, on sait d'où ça vient. Donc, a priori, il n'y a pas de fake news dedans. Il y a urgence, nous disent les spécialistes interrogés, à renforcer en tout cas le système immunitaire des médias. À ce jour, il n'existe, quelqu'un me posait la question, est-ce qu'on a des outils aujourd'hui pour détecter les images, les contenus vidéo, audio qui seraient fabriqués par IA? Alors quelqu'un nous dit que non. À ce jour, il n'existe aucun outil fiable, gratuit ou payant, qui permet de dire avec exactitude, avec certitude, si une photo était générée par de l'IA, c'est ce que dit Grégoire Le Marchand. Je ne sais pas si un tel outil existera un jour. Alors que l'IA devient une arme de désinformation massive, je crois que vous l'avez bien compris, les médias doivent pouvoir s'ériger en rempart qui protège encore le vrai dans un monde inondé par des contenus synthétiques. C'est le photojournaliste suisse Niels Ackermann qui le disait. En Guinée, par exemple, encore un exemple de désinformation, en Guinée, en Afrique, un faux mémo vocal d'Emmanuel Macron a massivement circulé il y a quelques semaines sur les boucles de messagerie privée comme WhatsApp ou Telegram afin de nourrir le sentiment anti-français sur le continent africain. Voilà. Avant que des médias ne révèlent la supercherie, parce que c'était un faux mémo vocal. Ça rappelle ce qui s'est passé en Europe de l'Est pour la législative dont on a parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez peut-être de cette autre photo. Ça aussi, c'est de l'IA. Hein, Le Figaro y revient. En France, le cliché d'un vieil homme ensanglanté, blessé par la police lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, était devenu viral en mars dernier sur les réseaux sociaux, notamment sur X. À l'époque, nous avions révélé des incohérences au second plan de l'image, au niveau des policiers, ce qui nous a poussé à faire des vérifications, explique Grégoire Le Marchand. Il nous a fallu quelques heures pour découvrir et révéler au public que cette image avait été générée par IA et était donc fausse. Voilà, cette image dont on a beaucoup parlé à l'époque sur les réseaux sociaux. C'est chaud quand même. Alors, tout le monde ne partage pas forcément cette inquiétude au sujet de l'IA. La question s'était posée il y a 3 ans à l'arrivée des deepfakes et finalement, l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu. Qui dit ça? C'est le dirigeant d'un groupe de presse français qui n'est pas nommé. Selon un expert du secteur, l'IA fait courir un risque systémique aux médias traditionnels, mais elle peut aussi devenir une opportunité pour en faire ressortir la valeur. Si on l'appréhende différemment, si on s'en sert différemment. David Collomb, notre chercheur qu'on a évoqué tout à l'heure, met pourtant en garde face à une entreprise à grande échelle, moi je suis un peu inquiet, de fragilisation de l'intégrité de notre espace informationnel, médias, réseaux sociaux, qui est aujourd'hui la cible d'attaques délibérées de la part d'États malveillants, d'acteurs non étatiques tout aussi malveillants. Ils encouragent la défiance vis-à-vis des médias de confiance, mais aussi à l'égard de toute information, d'où qu'elle vienne. Douter de tout, hein, ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux, là réside le vrai danger. Ça c'est un vrai risque. Hein. On se dit, bon écoutez, on ne sait plus reconnaître une vraie information d'une fausse information, d'une bonne information, d'une mauvaise information. d'une information de qualité, d'une fake news, bon, bah, je ne crois plus en rien, je ne m'y intéresse plus. Et là, c'est un vrai danger citoyen, quoi. La Fressing, merci pour le soutien. D'où, alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il y a peut-être des solutions proposées ici par cet article, qui n'est pas que sur un constat d'inquiétude, d'où l'importance de traiter le mal à la racine en développant très tôt les connaissances et l'esprit critique. Interrogé par le Figaro il y a quelques semaines, l'entourage du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonçait travailler sur une grande refonte des programmes scolaires afin d'y intégrer les derniers enjeux autour de l'IA. Moi, je trouve ça en vrai intéressant. Et apporter une meilleure formation sur ces sujets aux enseignants. Le ministère promet de doubler le nombre d'heures consacrées à l'éducation aux médias. Ça, je trouve ça bien. Reste à voir si ça va être fait et dans quelles conditions. L'école a un rôle déterminant à jouer, souligne Thierry Tuyer, donc le patron de l'info de TF1. La construction des citoyens, la formation de l'esprit critique devrait être considérée comme une matière à part entière. Oui, au même titre que les mathématiques ou le français, je suis d'accord. On peut mettre en place tous les pare-feux possibles pour se prémunir des fake news fabriquées à partir de l'IA. Mais la meilleure parade, c'est le citoyen éclairé. Bah écoutez, je trouve ça intéressant. À vous maintenant. Vous en pensez quoi ? Nico Manga me dit, est-ce que tu veux être professeur des médias ? Je vais vous répondre très clairement, non. Et c'est une façon de redire la considération que j'ai pour le métier d'enseignant. C'est un métier difficile, c'est un métier magnifique, c'est un des plus beaux métiers au monde, avec une des plus grandes responsabilités au monde qui est de former les esprits de demain. Voilà. C'est un métier qui n'est pas considéré par le reste de la société, dont la considération s'est affaiblie ces dernières décennies, qui est mal payé. On demande tout et son contraire aux enseignants dans des conditions extrêmement difficiles avec des salaires qui sont des salaires qui sont pas qui ne correspondent pas à leur mission quoi. Donc moi j'ai été enseignant parallèlement à mon métier de journaliste un an dans une école de journalistes. Donc je l'ai vécu un peu à l'intérieur. Et effectivement j'ai vu que c'était essentiel, que c'était difficile et que c'était mal payé. Donc non, clairement je dis bravo, courage aux profs, voilà. Moi je ne m'en sens pas le courage. Je peux pas répondre plus clairement, quoi. Merci Lubano pour le gentil message et bonne journée à toi. Je vous lis, et puis après on va lire un article sur Elon Musk. Il y a quelqu'un qui me dit « Je suis bibliothécaire, je reçois souvent des classes pour faire de l'éducation aux médias, et tous les profs s'accordent pour dire qu'ils n'ont pas le temps ni la formation pour enseigner cette matière qui présente un enjeu majeur. » À mon avis, c'est difficile d'enseigner l'éducation aux médias. C'est essentiel et difficile parce que du coup, ça implique de parler de l'actualité et puis d'avoir face à soi des élèves qui parfois s'intéressent aussi à l'actualité et s'informent peut-être auprès de sources de qualité ou parfois pas. Je pense que c'est des cours qui doivent être un petit peu animés avec des élèves qui doivent aussi contredire la parole de l'enseignant avec des opinions déjà, des regards. Voilà. Je pense que c'est compliqué. Voilà. Et vraiment, chapeau au prof. Mais c'est essentiel, il faut le faire. Tu vois, il y a Malof qui dit « Ma maman manque énormément d'esprit critique. Elle croit un petit peu à tout ce qu'elle voit sur Internet. J'ai beau la mettre en garde, nous dis-tu, alors qu'avec les IA, du coup, elle va jamais remettre en question les choses. J'ai donc peur qu'il y ait beaucoup de monde comme elle. » Je pense aussi, ouais. En fait, il faut se méfier. Quelque part, comme le méchant Mick, il évoque dans le chat, quelque part, il faut se méfier de tout, douter de tout, mais pas au... Enfin, il faut douter de tout, mais pas au point de se méfier de tout, si je puis me permettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut douter de tout, voilà, vérifier tout, hein, se demander si cette information elle émane d'une bonne source, si le travail d'information a été fait avec rigueur, mais ne pas se méfier de tout au sens où, à un moment, il faut quand même apporter un certain crédit aux sources d'information dont vous avez jugé en tant que citoyen qu'elles sont des sources d'information de qualité, quoi. Sinon, à un moment, ça va nous détourner de l'actualité. Et je pense que pour être un citoyen éclairé, il faut s'intéresser un petit peu quand même à l'actu. pour savoir dans quel pays, dans quel monde on vit, quoi. Merci John Doe, j'ai vu ton erratum, pas de souci. Il y a Mister Nitrix Live qui dit on a tous la même maman. Ah, ah, effectivement, ça va être vraiment problématique chez cette population qui est grandement majoritaire en France. Alors moi, j'ai un papa qui s'intéresse beaucoup à l'actualité, qui est assez âgé, mais qui est formidable, et qui a un grand esprit critique. Alors, il lit beaucoup la presse. Il s'intéresse, je pense que c'est lui qui a fait que je suis devenu journaliste, en fait, parce que il s'intéressait beaucoup, même s'il a pas eu la chance de faire d'études, à l'actualité, il lisait énormément la presse. Et alors, ce qu'il protège, c'est qu'il n'est pas du tout sur Internet, mon papa. Il a complètement raté cette révolution et il n'est pas du tout sur Internet. Il a un téléphone qui permet d'envoyer des SMS et de téléphoner. Et en fait, il ne va pas du tout sur Internet. Il ne sait pas ce que c'est un réseau social. Il sait pas, voilà. Donc, il est protégé de ça, quoi. Et il s'intéresse en lisant il s'informe en lisant les journaux, quoi. Ça, c'est super. Ça, c'est papa. Ça, c'est super, ça. Qu'il soit protégé de ça, quoi. Captain Martus, merci pour le troisième mois d'abonnement. Alors moi, vous savez, c'est mon pari, c'est mon postulat, je m'informe quasiment exclusivement dans la presse écrite. Pour plein de raisons que j'évoque au quotidien depuis 3 ans, pour moi, c'est la meilleure source d'information possible, parce qu'elle est multiple, il y a différents regards, différentes lignes éditoriales, un papier, il est signé, on sait d'où il vient, il est dans un journal identifié, s'il y a des choses qui ne vont pas dedans, on peut interpeller le journal, l'article, il est lu, il est relu par une hiérarchie, c'est pas quelqu'un tout seul dans son coin. Et puis on peut, quand il y a des erreurs, on peut s'en prendre au journal. Quand Libération fait une erreur, eh bien on peut dire à Libération, là vous avez merdé. Et la preuve, c'est que Libé, le lendemain, d'ailleurs, fait un papier pour dire on a merdé, quoi. Voilà. Moi, j'aime cette presse-là, quoi. Je m'informe auprès de cette presse. Mais c'est mon pari, c'est mon postulat à moi, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut encore s'informer sans Internet? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est très particulier comme position, celle que j'ai, quoi. Moi, j'ai décrété que la meilleure façon de s'informer en France, c'était de lire les journaux. Mais ça prend du temps. Après, je me réveille le matin en scrollant Twitter et Insta et TikTok. Mais en vrai, au vu du temps que je passe sur les réseaux sociaux et sur Internet et des infos de qualité que j'y trouve, en vrai, l'investissement, il n'est pas terrible, quoi. Est-ce que tu t'interdis des médias comme Mediapart ou Blast? Alors ça, pour moi, c'est de la presse écrite, ça. C'est une presse écrite qui est sur Internet. Parce que pour des raisons de coût, ils ne sont pas imprimés. Pour moi, c'est de la presse écrite. C'est un article qui est écrit, qui est posté, qui est signé. C'est la même chose, quoi. Vous voyez? Mais en vrai, quand je vois le temps que je passe sur les réseaux et les infos que j'en ressors, l'investissement, il n'est pas terrible, hein, en vrai. Il vaut mieux lire un journal, hein, en changeant de journal de temps en temps, hein. Et puis d'ailleurs, tous ces journaux sont en train de s'adapter, puisque le Figaro, Le Monde, Libération, Le Parisien ont leur site internet où ils vont répercuter les dernières informations, où ils vont travailler en direct, où ils vont s'ouvrir aux commentaires. Donc cette presse écrite a pris ce virage, par ailleurs. Mais moi, je les lis sous forme, alors papier ou téléchargé sur ma tablette, mais... J'aime bien cette presse qui, en gros, sort toutes les 24 heures en prenant parfois quelques heures pour vérifier quelques informations, quoi. Allez, on enchaîne avec un dernier article. Peut-être qu'on fera un petit peu de gaming après. Ça va dépendre de l'heure qui reste. On va parler de Elon Musk. Alors, elle est belle, cette une. Très belle photo. Un petit peu une photo à la Libé, d'ailleurs. Ouais. D'Elon Musk. Alors, c'est carrément la une des Échos. Qu'est-ce qu'il a fait encore pour mériter la une des Échos? Les deux visages d'Elon Musk. Un visage lumineux et un visage plus dark, selon les Échos. Pour son deuxième essai, Starship, la fusée qui doit ramener les hommes sur la Lune, a validé plusieurs étapes avant d'exploser. Donc, elle a explosé. Mais ça s'est plutôt bien passé. Bonne nouvelle, visage lumineux. Mais pourtant, écrivent les Échos, l'homme le plus riche du monde traverse une mauvaise passe. La Maison Blanche l'accuse d'antisémitisme. Et certains annonceurs quittent actuellement X/Twitter. D'abord, le versant lumineux, les bonnes nouvelles, avec Starship, la fusée géante de Musk qui marque des points, un article dans les Échos pour son deuxième grand test. La fusée géante de SpaceX a réussi la séparation de ses deux étages avant de rater l'orbite finalement et d'exploser. Une étape est franchie, il en faudra d'autres, écrivent les Échos, pour envoyer des êtres humains sur la Lune et encore bien d'autres pour fouler la surface de Mars. La fusée la plus puissante jamais construite par un homme a décollé samedi depuis la base de Boca Chica au Texas à 7h locale. Starship qui a atteint les toutes premières couches de l'espace échouant cependant à se placer en orbite proche. Pour son deuxième essai, l'étage supérieur de l'engin inventé par SpaceX s'est hissé avec ses 33 moteurs Raptor jusqu'à plus de 90 km d'altitude après la séparation réussie de Super Heavy, l'étage de propulsion, 2 minutes et demie après la mise à feu, mais le contact a été perdu ensuite. Après 8 minutes de vol environ, et Starship s'est désintégré. Impossible de ne pas être enthousiaste, même si tout n'est pas parfait bien sûr, dit Thomas Pesquet, que vous connaissez, l'astronaute français, qui dit avoir eu des frissons dans le dos avec ce test. C'est une machine magnifique avec un panache de 1000 pieds, a dit Musk en postant les images spectaculaires du test. Un résultat qui peut lui donner un petit peu de baume au cœur, le patron de Tesla affrontant de nombreuses critiques pour ses sorties fracassantes sur les réseaux sociaux, jusqu'à celle de la Maison Blanche qui l'accuse de faire une promotion abjecte, je cite la Maison Blanche, de l'antisémitisme. On va se pencher sur ces accusations dans un instant. Si ce succès n'est pas éclatant, plusieurs marches ont été franchies selon la méthode itérative de SpaceX, je vais y arriver, qui pratique un test and learn qui le rend plus rapide que tous les autres. Ils vont très très vite. Avancer ainsi en aussi peu de temps est en soi une réussite. Il y a peu de doute sur le fait que cet engin finisse par fonctionner, dit un industriel de l'espace. Reste que l'objectif américain, donc de déposer sur la Lune les 4 astronautes de la mission Artemis 2025, scintille encore loin en firmament, écrivent les Échos, semble pour l'instant irréaliste. Pour garder une longueur d'avance sur la Chine et rééditer les exploits accomplis il y a un demi-siècle, NASA a donc enrôlé SpaceX afin d'obtenir à coût réduit une gigantesque fusée capable de servir d'alunisseur. Elon Musk veut faire bien plus, un vaisseau permettant de lancer de nouveaux satellites à des prix ridicules et surtout à même d'établir une colonie sur Mars. Voilà, donc ça, c'est la fusée. Et maintenant, la polémique. Le génie de l'innovation, rattrapé par sa face noire, un peu comme la face sombre de la Lune. Si Tesla et SpaceX accumulent les réussites spectaculaires, les frasques et surtout les paroles d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, suscitent une levée de boucliers au point de sérieusement assombrir son étoile. Il pourrait être un héros absolu de l'Amérique, le visage immaculé de la modernité et du progrès, un fascinant personnage convertissant la science-fiction en réalité tangible, mais sa liberté de ton et ses positions fracassantes jettent un voile délétère sur sa personne, comme si le Janus de l'innovation ne pouvait s'empêcher de verser du napalm sur son insolente réussite quand tout lui sourit. Elon Musk semble avoir été rattrapé par son mauvais génie ces derniers jours, écrivent les Échos. Si son incroyable fusée Starship progresse dans sa course aux étoiles, si Tesla produit sa formidable percée dans l'automobile, ces frasques troublantes l'empêchent de savourer le moment. Je me suis tiré des balles dans le pied si souvent que je devrais m'acheter des bottes en Kevlar, dit-il lui-même. Donc il a un peu conscience de ça aussi. L'homme le plus riche du monde a la gâchette facile en ce moment dans un contexte inflammable. Son approbation publique en milieu de semaine d'un tweet affirmant que les Juifs organisaient un génocide blanc lui a valu des remontrances féroces de la part de la Maison Blanche, qui a accusé le libertarien de faire une odieuse promotion de l'antisémitisme. Dans le même temps, de grands annonceurs, IBM, Apple, Disney, ont décidé de boycotter le réseau X Twitter, donc en termes d'annonces, de pub, quoi, refusant que leur publicité soit diffusée à proximité de messages haineux, puisque vous savez que la modération a quasiment disparu sur Twitter et que les contenus problématiques ont explosé sur Twitter, sur X. Je pense que vous en faites le constat au quotidien, sauf ceux qui sont OK avec ce contenu problématique, il y en a aussi. Y compris parfois dans ce chat, qui disent « Mais non, c'est très très bien la liberté absolue de parole, il y a des dingueries dans tous les sens, c'est parfait, je me régale. » Depuis la prise de contrôle de Twitter pour 44 milliards de dollars par Musk, le réseau social a perdu la moitié de sa valeur, c'est pas un super investissement, la faute aux règles plus souples de modération exigées par le milliardaire. Et puis après, il y a les conditions de travail dans l'entreprise, je passe vite aussi. Les méthodes brutales et ultra exigeantes d'Elon Musk, qui ont obtenu des résultats merveilleux, ont également leur revers. Chez SpaceX, les accidents de travail souvent graves sont nombreux, a révélé l'agence Reuters il y a 10 jours. Il faut dire que le patron explique aux salariés qu'il n'aime pas les gilets fluo de sécurité. Chez Tesla, ce sont les syndicats suédois qui mènent la révolte sur leurs conditions de travail après le refus de l'entreprise de signer une convention collective. Désormais, les dockers refusent de débarquer ces voitures. Voilà pour les petits soucis de M. Musk. Et maintenant, je vous lis, puisqu'en général, Musk, ça provoque pas mal de débats. Welkinovich, merci pour le soutien. Captain Martius, merci pour le troisième mois d'abonnement. Astrapic, merci pour le Prime. Allez, à vous maintenant. Alors, Vincent dit, c'était déjà catastrophique avant Musk, la modération, c'était catastrophique. Mais c'est pire. Mais c'est pire. Non, en vrai, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Ouais. Et comme le dit Kitchundales, les contenus problématiques tombent dans ton feed, même quand tu ne demandes rien. C'est hallucinant. J'ai vu récemment, il y a quelqu'un que je suis sur Twitter qui dit qu'il avait créé un nouveau compte en ne suivant personne, en ne likant rien, voilà. Donc un compte vide, voilà, zéro, il suit personne, il like rien, et du jour au lendemain, il a vu sur son compte apparaître plein de messages avec des contenus problématiques, extrémistes, voilà. Donc ça déborde, quoi, ça déborde. Moi, moi, je poste sur Twitter quasiment que des messages pour annoncer en gros mes streams. Hein. Donc, c'est un contenu qui est assez neutre, quoi. Et j'ai quand même régulièrement de... Il y a Chibrax, joli pseudo, qui dit beaucoup trop de porno sur X, quasiment sur tous mes messages. Maintenant, à un moment, il y a dans les réponses, il y a des gens qui font la promotion de sites pornographiques, quoi. Pff, la modération est inexistante, quoi. C'est peut-être Fibrotique hein, qui a fait ça, ouais, peut-être bien. Alors, ça fait. C'est quoi là ouais, moi aussi, je me suis posé la question. C'est quoi cette référence au génocide blanc? Alors, moi, je vous avoue que je ne suis pas très au fait de cette notion de génocide blanc. Alors, génocide blanc qui serait de la responsabilité des juifs selon le message qui a été approuvé par Musk sur Twitter. Et alors, je suis allé voir ce que c'était génocide blanc. Bon. J'ai trouvé une def sur Internet, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, sur Wikipédia, qu'est-ce que c'est la théorie du génocide blanc? Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vous avoue que je ne maîtrise pas bien le sujet. C'est parti. La théorie du complot du génocide blanc est une théorie conspirationniste d'extrême droite associée aux idéologies racialistes, néo-nazies, identitaires, nationalistes blanches, suprémacistes et séparatistes blanches qui soutient que l'immigration de masse, l'intégration raciale, le métissage, de faibles taux de fécondité des Blancs, l'avortement, c'est sans fin ce truc, hein. La confiscation de terres des Blancs, je pense que ça fait référence notamment à l'Afrique du Sud. Il n'est pas sud-africain d'origine d'ailleurs, Musk. La violence organisée contre eux ou leur élimination, y compris dans les pays à majorité blanche, serait hypothétiquement encouragée. Oui, c'est ça, il est d'origine sud-africaine, je crois. Hein. Cette théorie considérée comme complotiste d'ultra-droite soutient que ces actions visent à remplacer, éliminer ou liquider délibérément les populations blanches, et à démanteler le pouvoir collectif blanc, à rendre la race blanche minoritaire et à faire en sorte que les blancs disparaissent par assimilation forcée ou par génocide violent. D'après ce que je comprends, c'est une référence à cette théorie que Musk vient d'approuver sur Twitter, d'après ce que je comprends. Ouais. Oden et d'autres disent, bon, c'est un peu le grand remplacement, mais version US, quoi. Sauf que c'est une notion qui a connu un certain succès dans plusieurs pays et pas seulement les États-Unis. Quoi. Salut Mini. Merci beaucoup pour le soutien pour le sixième mois d'abonnement, c'est adorable. Attendez. Alors, attends. Je suis en train de chercher une info. Et après, on va faire un peu de gaming. On peut se détendre un petit peu. Alors, quelqu'un me disait à l'instant, c'est important de poser des questions. Où est-ce qu'il est ? Le message. Voilà. Juste Nuc, d'où est-ce qu'il a approuvé cette théorie ? Je vous défie d'apporter les preuves. Bon, alors après, tu peux faire comme moi, tu peux faire Google, hein, en deux secondes, et je ne sais pas si ça va nous apporter la réponse, mais on trouve des éléments intéressants. Un article du Monde, qui est une source plutôt sérieuse, ou en tout cas qu'on utilise beaucoup ici. À 16h52, Musk approuve donc un tweet antisémite posté un peu plus tôt, donc je pense qu'on va retrouver ça dans l'article, qui prétend que les communautés juives prônent le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu'elles prétendent vouloir que les gens cessent d'utiliser contre eux. Voilà, c'est un article du Monde sur le sujet. C'est là en fait. Je peux vous mettre le lien dans le chat si vous voulez. Je vous le mets, mais j'ai peur que vous n'y ayez pas forcément accès, parce que moi j'y ai accès parce que je suis abonné au Monde. Et peut-être que vous allez avoir droit qu'aux premières lignes. Voilà. Ouais. Là-dessus, sur ce sujet, ça a marché ce que j'ai fait ? Ouais. Bah, je ne sais pas si vous avez accès à tout le... Parfois les articles sont en libre accès, et puis parfois pas. Là, moi je suis abonné au Monde, donc je l'ai en entier. Voilà. Donc allez, n'hésitez pas à vous informer par vous-même, hein. C'est un comment, c'est une réponse à un tweet. Après, il se défend d'avoir dit ça. Il dit que c'est pas tout le monde. Voilà. Donc c'est, je pense que ça mérite d'être creusé effectivement. Merci Sarah, vous l'avez mis aussi, vous l'avez épinglé. Voilà. On n'a pas accès en entier. Ouais, désolé. Bon, les amis. Oh, on a abordé, je trouve, suffisamment de choses bien, bien, bien angoissantes ce matin. On va se faire un petit repos maintenant. Un petit repos, une petite détente, un petit peu de gaming, rapidement. Un petit horoscope. Vous avez raison, un petit horoscope. C'est parti, horoscope. C'est parti. Le jeu de l'horoscope. Ah. Alors attends, je crois que c'est les Lions qui ont gagné. J'avais oublié le jeu de l'horoscope. Je vous rappelle le jeu de l'horoscope pour ceux qui ne connaissent pas. Quand je dis horoscope, le premier et la première qui me donne son signe astrologique, je lui lis son signe. On n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, ça nous fait marrer. Voilà, il est ici. Et les modos valides, effectivement, c'est John Doe, notre ami John Doe, qui nous a donné Lion, le premier dans le chat. Voilà, quand John a compris que le jeu de l'horoscope était relancé. Donc c'est Lion. C'est Lion ce matin. Et c'est bien parce que Lion, L-I-O-N, c'est quatre touches sur un clavier, et pourtant ils gagnent très très peu les Lions. Alors qu'on a des Sagittaires, alors qu'on a des Scorpions, on a des Poissons, voilà, qui gagnent plus souvent, très bizarre. Donc c'est bien que les Lions gagnent aussi. What the fuck, c'est jamais Verseau ? Si, c'est Verseau parfois, mais aujourd'hui c'est Lion. Lion. Comme je suis sympa, je zoome sur Lion, ce qui vous permet de choper Cancer, Vierge, Balance et Scorpion aussi. Lion, cœur, si vous ne comprenez pas pourquoi les autres vous évitent, demandez-leur. C'est un bon conseil. Et peut-être que les gens vont vous dire, écoute, on te trouve très sympa, John, parce que John, on te trouve très sympa, John. T'es plutôt une belle personne, sympa, t'es une belle allure, voilà, t'as même des propos brillants. Au travail, tout le monde apprécie ton engagement, mais tu pues de la gueule. Voilà, le macaroni 7 a deviné. Une sombre histoire d'haleine peu fraîche. Voilà. Je pense que tu as un problème de digestion ou peut-être une dent gâtée. Voilà. Et en fait, on te fuit parce qu'en fait, tout simplement, tu empestes de la goule, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être ça. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à aller voir les gens. Si vous ne comprenez pas pourquoi les autres vous évitent, demandez-leur. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Ou pas. Ça peut être autre chose aussi, hein. Réussite, attention à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu scrupuleuses, notamment sur internet. John Doe dit, on a bien fait de gagner l'horoscope. Tiens, attends, c'est pas fini. Forme, morale en baisse. Ok, vous avez vraiment un horoscope de merde, Lion. Je serais vous, j'aurais pas gagné, hein. C'est vrai qu'il est pas bon, hein. C'est vraiment pas un bon horoscope. Bon, les reprends un chewing-gum. Oh, c'est affreux, c'est affreux. Merci les amis pour votre participation à l'horoscope ce matin. On va se faire un petit moment de détente puisque maintenant je suis devenu un gamer. Voilà. Je vais juste vérifier que j'ai pas un rendez-vous qui s'enchaîne. Si c'est pas indiscret, ça te coûte combien par mois au total les abonnements de journaux? Ben, je suis abonné à chaque journal, comme ça je les ai très tôt le soir. Je sais pas, c'est entre, je sais plus, un abonnement d'un journal, c'est entre 15 et 30 euros par mois, je crois. Donc je sais pas, j'en lis, je sais pas combien j'en lis. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf à peu près. On va dire 20 euros par, ouais, 180, 200 balles, quoi. Ben, par mois, à peu près, je pense. Voilà, ouais, 200 euros, je dirais 200 euros par mois. Voilà. Mais enfin, quand on aime, hein, quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça qu'il n'y a plus de budget pour remplacer la chaise qui grince. Dit exutoire. Il y a Flo Lafleur qui dit pas de ristourne du fait de ton métier. Non, j'en demande pas, j'en veux pas. Je ne demande pas aux journaux que je lis de les avoir gratuitement. Je pourrais, je pense, assez facilement. Gratuitement ou moins cher, parce qu'en fait, je ne veux pas qu'il y ait de lien, en fait, de commercial ou de geste, voilà, de ces journaux. Je veux les lire parce que j'aime les lire, parce que tel article m'a intéressé, et je veux pas qu'on me dise, je pense pas qu'il le ferait d'ailleurs, ah bah tiens, toi à qui on offre le journal tous les jours, est-ce que tu voudrais bien parler de cette enquête qui est, vous voyez, bah, donc je préfère payer plein pot, c'est plus clean. Je regarde juste les mails pour savoir si j'ai pas un rendez-vous, c'est calé là. Ok. Eh ben écoute, moi je crois que j'ai pas de rendez-vous. Écoutez plutôt, je vous tutoie là. Je crois que j'ai pas de rendez-vous là. En début de l'après-midi. Donc on peut se faire un petit truc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ça va jouer entre Rocket League et Fall Guys. Sachant qu'on n'a pas le temps de lancer un petit The Witcher et que j'ai pas encore installé. Merde. Quel j'ai joué hier soir. Merde. Valorant. Qui n'est pas encore installé sur mon PC, sinon ça aurait été Valorant direct, quoi. Direct, parce que vraiment j'ai super envie de découvrir Valorant et que ça rigole. Voilà, mais je ne l'ai pas encore installé, il faut que je me crée un truc, enfin bref, faut que je vois ça. Voilà. Donc petit sondage, c'est vous qui décidez. Nouveau sondage, boum. Est-ce qu'on joue à... Ah mais Valorant, on va jouer. Hein. Valorant, on va jouer, c'est sûr. Le temps que je crée mon compte, quoi. Est-ce qu'on joue à Fall Guys? Où est-ce qu'on joue à Rocket League? Est-ce qu'on joue à je ne sais pas? Parce que ça, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. T'es parti, 2 minutes. Comment ça, Valorant, c'est la honte? C'est drôle, Valorant. Shooter dans toute la tête de ces gens, moi, ça a un côté un peu détendant, enfin, détendant, qui détend, en fait. Non? Vous n'avez pas trouvé? Sondage en cours, c'est parti, vous avez 2 minutes pour voter. Oh là là, il y a un des deux jeux qui prend nettement l'ascendant sur l'autre. À cause de toi, j'ai joué à 7 heures à Rocket League ce week-end, me dit Clamakin. C'est bon, Rocket League. Outer Wild, c'est prévu, c'est au menu, je sais pas encore quand, mais on va le découvrir ce jeu. J'en profite pour lancer mon PC de gaming pour arriver, me dit MMG. Ah, ces gens qui votent Fall Guys, car ils veulent jouer avec toi parce qu'on joue avec la commu ici, on alterne les parties solo et les parties ouvertes à la commu, c'est vrai. Ça me détend plus trop, moi, Valorant, me dit Funky Molly, les parties sont truffées de Smurf. Et la majorité sont devenus injouables à mon petit niveau. Ah, c'est dur, ça. Moi, je veux jouer avec des gens nuls comme moi, sinon c'est pas drôle. À cause de toi, j'ai installé, je me suis fait une game de Valorant, je me suis fait laver, me dit Red Robert. Ah, zut. Moi, j'aimerais bien jouer à Valorant, mais à la condition de jouer avec des gens mauvais comme moi, quoi. Electric me dit, avec ma fille, nous avons passé la matinée à jouer à Fall Guys. Trop bien, trop bien. « Ah bah oui, Civilization, c'est prévu aussi. Lazaret dit j'ai hâte de voir le simplet sur Dark Souls, sur Civilization. C'est prévu, Civilization, ça arrive dans pas longtemps. Sur un jeu de gestion façon City Skyline, sur un jeu d'horreur. Jeu d'horreur, ça arrive dans pas longtemps. Le jeu d'horreur, il arrive dans pas longtemps dans simplet. Sachant que dimanche prochain, c'est Hitman. Mais le jeu d'horreur, il arrive très bientôt avec un invité exceptionnel. Ouais, je pense que ça va être cool, ça. Ouais. Bon, ça donne quoi le sondage? Bon, bah c'est net, hein. Y a pas photo, hein. Voilà. 65% de Fall Guys. 65% de Fall Guys. 25% seulement de Rocket League. On se donne une petite limite par contre. Hein. Oh, Citron Violet, le joli raid. Vous arrivez à un chouette moment, Citron Violet, les amis de Citron Violet. On est sur une belle chaîne. Je pense que les modos vont vous mettre la chaîne dans le chat. Une belle chaîne. Hein, c'est depuis le Japon, un Français installé au Japon qui fait découvrir le Japon dans ses streams IRL. Super chaîne. Merci beaucoup. Vous arrivez au moment où on vient de terminer le sondage post-revue de presse pour choisir le jeu sur lequel on va se détendre maintenant un petit peu. Est-ce qu'on va jouer à Fall Guys ou à Rocket League? Vous voyez que c'est nettement un vote en faveur de Fall Guys. Sachant que je suis très mauvais, mais c'est ça qui est drôle. J'ai découvert le jeu dimanche, il y a 8 jours, avec moment, je suis très mauvais, mais on rigole. Voilà. David nous dit Fall Guys, c'est un jeu qui détend bien. Qui détend bien, enfin bon, moi j'arrive à m'énerver, hein, parce que comme j'arrête pas de perdre, j'en ai marre. Merci les amis de Citron Violet, bienvenue. Hop, on va cleaner un peu toutes ces fenêtres, j'ai à peu près 600 fenêtres d'ouvertes. Je ferme tous les articles qu'on a ouverts, le monde, tout ça et tout. Bon, bah, je vais vous ouvrir ça alors. Attends, je vais juste répondre à mon amoureuse. J'ai quelques rendez-vous cet après-midi, mais ça va. Après-midi, cool. Tout. C'est où? Ok. Ok. Non, restaurant japonais. Ah, c'est cool ça. Ok. Ah, ça détend. Ah oui, il y a Alain Melon qui dit ça détend pas Fall Guys. Ouais, parfois, ça énerve un peu. Hein. Ouais. Siming, bonne journée à toi. Non, pas 3 heures. Là, on se donne un deadline, enfin une limite. Hein, on est ensemble depuis 2h38. On va faire Fall Guys maximum une heure. Maximum une heure. Alors, je vais là. Il est où mon Fall Guys?